Vous pensiez qu'on était mort et non, Caméflex saison 2, ça reprend jeudi 4 avril à 19h30 sur Twitch, twitch.tv/Nicodelage. Gros changement dans l'émission, de nouveaux invités, de nouveaux chroniqueurs, de nouveaux jeux. Bref, ça va être une zinzinade, une chocolaterie. On vous attend nombreux.
Oh, les moteurs! Mais où est-ce qu'il est, ce camp de Perchman?
Bienvenue dans Caméflex.
Je viens d'arriver.
Tu viens d'arriver. Votre talk show cinéma hebdomadaire où Nico vient d'arriver comme à chaque fois. On parlera de BO, de musique de film. On va parler de musique parce qu'on aime un petit peu tout ça et puis qu'on a quand même deux gros experts à notre table
oui,
ce soir.
Oui, je crois que le mot gros est tout à fait.
Un vieil expert.
Et puis, on était censé parler d'actu ciné, chose qu'on ne fera pas ce soir, car
parce qu'on
n'a
pas vu les films.
Pas vu du tout les films. Mais on vous a préparé d'autres discussions, notamment sur le format physique, et tout ça entrecoupé, bien évidemment, de jeux.
Alors, peut-être qu'on peut expliquer pourquoi on n'a pas pu voir les films plus
en détail. On peut peut-être présenter avant nos...
Peut-être qu'on peut faire ça, oui.
Nos amis.
À notre droite, nous avons Werner. Je sais pas si on dit ton nom de famille ou si on dit...
On peut dire mon nom de famille.
Papo MP3.
On a Werner Riboulot, donc de la chaîne Werner.mp3 qui nous rejoint. T'étais là sur le pilote de l'émission qu'on n'a pas diffusé.
Le pilote.
Donc, et tu nous as aidé à construire le plateau.
Tout à
donc
fait.
T'es là depuis la genèse de l'émission, depuis le tout début.
Et Dieu sait que ça me fait plaisir que cette émission tourne, tu vois, genre après tous les efforts qui a eu lieu, ça me remplit de joie.
Et c'est trop bien de t'avoir parce que t'as une chaîne du coup qui parle de musique, tu racontes plein d'histoires dans la musique, tu fais des vidéos d'analyse, tu fais vraiment plein de choses, mais ça tourne toujours évidemment autour de la musique.
Tout à fait.
Et tu viens de sortir une vidéo hier.
Tout à fait.
Je sais pas si on parle de ça maintenant ou si
bon, on va y revenir un petit peu plus tard.
Suspense. Mais c'est une vidéo qui a un lien très fort avec le cinéma justement.
Tout à fait.
Et donc, merci d'être là, Werner.
Ça me fait trop plaisir. Je suis trop content d'être là. Ça me fait trop plaisir de voir Caméflex exister.
Et à ma gauche, merci David de nous faire l'honneur de ta présence.
Avec plaisir.
David, tu es sur le podcast Total Tracks.
Oui, je suis le passeur de plat du podcast Total Tracks entre Rafik Djoumi, l'expert cinéma, et Olivier Desbrosses, surnommé Professeur Desbrosses, l'expert musique de film. Donc entre les deux, j'essaye de caser.
Tu fais passer la parole entre les deux. Et toi, tu es aussi sur la chaîne son vidéo.
La chaîne YouTube de sonvideo.com.
Ouais, sonvideo.com.
Ils ont une chaîne YouTube sur laquelle j'essaye de faire un podcast. J'essaye de faire une émission qui s'appelle Le Rayon Bleu sur le Blu-ray Ultra HD principalement.
Ouais.
Et j'essaye de décrypter un peu ce qu'on retrouve dans des belles éditions comme l'intégrale de Star Wars, l'intégrale du Seigneur des Anneaux.
Là dernièrement John Wick 4, t'as fait aussi Avatar 2.
Avatar 2, hein, ça c'était pas
Avatar 2
revoir,
qui n'a pas
de revoir 12 fois Avatar 2. C'est absolument génial.
Surtout que le film est très court quoi.
Ouais, j'adore Cameron, merci. J'attends avec un peu plus d'impatience là les sorties d'Abyss et de True Lies.
Oui, c'est vrai, c'est pour bientôt. Mais moi je suis complètement dégoûté qu'il n'y ait pas le 48 images secondes sur le Blu-ray 4K de
Alors, il y a une réponse à ça, c'est qu'en fait le format Ultra HD ne gère pas le 48.
OK.
Il gère du 60, il gère peut-être même plus rapide. En tout cas, il gère du 60 images par seconde et donc comme c'était du 48, eh ben ils l'ont pas fait a priori à cause de ça. Alors, moi
ouais, c'est des économies.
Ça me fait un peu grincer les dents parce que je pense qu'il y a moyen d'upscaler d'upgrader le 48 en 60.
Ouais, bien sûr.
Avec l'IA, avec plein de choses.
D'ailleurs, tu crées des fausses frames qui se répètent. Enfin,
d'ailleurs, ils ont fait une très belle édition ultra HD du premier Avatar, qui a été upscalé à l'IA.
Okay.
Et le résultat est hyper bluffant.
C'est ce que
à
tu
part
dis dans
sur
ta vidéo,
certains trucs, certains plans de visage qui sont un tout petit peu marqués, mais dans l'ensemble, c'est absolument renversant.
Oui, tu disais que sur les plans d'acteurs réels, c'était un petit peu plus étrange, en fait.
On sent un peu l'upscale, mais franchement, dans l'ensemble, le truc gagne en qualité, en image, c'est incroyable. S'ils ont été capables de réussir ça, honnêtement, ils auraient pu sortir un Blu-ray.
Ouais, c'est l'économie d'un Blu-ray 4K.
Mais c'est pareil, j'ai beaucoup râlé quand le Hobbit est sorti, qu'il n'y ait pas de version HFR en Blu-ray du Hobbit. Après, ça aurait nécessité probablement de faire deux Blu-ray par film, voire peut-être trois, j'en sais rien, vu la qualité de la compression. Et puis de faire ça très cher. Mais qu'à cela ne tienne, il y a toujours des fans comme moi d'ailleurs, pour s'offrir ce genre de choses. Bah ouais. C'est dommage de pas le proposer.
Est-ce que tu penses que c'est parce que ils se disent que le grand public ne connaît pas la technologie du high frame rate et que ils s'intéressent pas forcément à cette variation d'image?
En fait, il y a plein d'explications, mais on va y revenir parce que comme on va parler tout à l'heure du format physique,
bien sûr.
On va reparler de tout ça, je pense.
Exactement. Bah merci en tout cas les gars d'être présents sur cette émission.
Avec plaisir.
On a plein grand de plaisir. Choses à dire et je te laisse commenter directement.
Ouais, bah,
sur le thème qui
le thème c'est quoi cordes. C'est les BO de films. Donc on vous a préparé des petites questions qu'on vous avait envoyées d'ailleurs.
Oui,
vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu. Et comme ça on vous apprend à vous connaître un petit peu musicalement et
discuter un peu. C'est un peu la première fois qu'on fait cette forme là.
On essaye.
Et le chat, si vous avez des idées d'autres questions qui peuvent compléter notre liste, et ben n'hésitez pas. En vrai, ça peut être aussi intéressant d'avoir vos questions. Je te laisse faire la toute première question.
Oui. Alors les gars, pour vous, c'est quoi la BO de films qui vous ramène directement en enfance, le truc qui se sort pas du crâne, c'est relié directement à ça?
C'est un peu compliqué, j'ai beaucoup réfléchi à cette question là et j'ai même demandé à ma mère pour te dire, tu vois, de savoir qu'est-ce qui me rendait fou en termes de musique quand j'étais gosse, de musique de film et tout. Évidemment c'était les Disney. Et a priori c'était beaucoup la musique de Bambi, étonnamment. Alors,
okay.
Et que je matais énormément Bambi quand j'étais vraiment gosse, donc c'est un peu a priori la
quelle vie triste
et morne finalement.
J'ai toujours détesté Bambi,
mais oui, mais ma mère me disait d'ailleurs que genre j'étais terrifié par le film mais que je le matais en boucle, quoi. Donc j'étais visiblement un gosse bizarre, tu vois.
J'ai aucun souvenir de la BO, c'est quel style musical?
Hip-hop,
ouais, beaucoup de hip-hop,
c'est
techno.
C'est de l'hyper-pop globalement
et du hard rock.
Ouais, voilà, globalement. Non, mais c'est typiquement ce qui se faisait à l'époque, hein. C'est vraiment le style des frères Sherman, hein, qui ont été vraiment les pionniers de l'esthétique musicale Disney, quoi. Donc, c'était globalement, c'était déjà dans la lignée de ce qui se faisait avec Blanche-Neige et tout ça, et en fait, qui va poursuivre tout le long des années 50, 60, 70, quoi. Donc, après, donc voilà, c'était globalement le souvenir qui revenait de BO d'enfance, quoi. Mais et puis après, sinon c'est d'autres œuvres et c'est d'autres médias aussi qui m'ont plus parlé en termes d'OST quand j'étais jeune, quoi. Quand j'étais jeune.
L'époque.
Ah oui, à l'ancienne.
Oui,
à l'ancienne.
Quand j'étais jeune.
Ben,
moi, je peux le dire.
Et toi, du coup, alors quelle est la musique qui te la bande son, le score qui te ramène en enfance?
Alors, j'ai pas demandé à mes parents. Parce que j'y ai pas pensé. j'ai essayé de faire une introspection là-dessus, tu vois. Alors évidemment, il y a des BO emblématiques, Star Wars en 77, Les Aventuriers en 80. Et je me suis dit, c'est pas forcément des BO qui me ramènent à l'enfance parce que c'est des BO que j'ai continué à écouter toute ma vie. C'est vraiment les grands thèmes de John Williams, les grandes BO de musique de film. C'est des choses que je continue à écouter encore aujourd'hui. Et en fait, vraiment, une BO qui me ramène à l'enfance, c'est la BO du dessin animé Ulysse 31. Alors, j'avais 12 ans, donc j'étais pas si gamin que ça, mais c'est une BO incroyable qui m'a vraiment marqué dans ses sonorités. Mmh. Donc, il y a un côté un peu disco, il y a un côté synthé. C'était 4 compositeurs dont j'oublie toujours le nom, il y a Chucky Levy, Yann Saban.
Rahim Saban, qui est du coup le créateur des Power Rangers.
Et en dehors du thème principal de la chanson d'Ulysse que tout le monde connaît et de sa version Ulysse revient, qui a été histoire de relancer le truc 3 ans plus tard. Mais c'était toujours la même série, il n'y avait pas de nouveaux épisodes. La musique dans la série est génial parce qu'en fait c'était vraiment l'époque où les gars composaient des thèmes pour des situations particulières, quand les dieux interviennent, quand il y a des scènes d'action, etc. Donc c'est des morceaux qui reviennent de manière très récurrente dans la BO, mais qui est superbe. Et en plus, alors il y a eu un disque il y a quelques années qui est sorti, mais qui était pas terrible parce qu'il y avait pas les sources. Alors après, il y a un type que je connais bien, qui est un ami qui s'appelle David Collin, qui a fait avec un projet qui s'appelait Parallax, qui a réenregistré, recomposé toute la musique du Ulysse 31.
D'accord.
D'oreille.
Putain, c'est ouf. D'oreille.
Ouais, c'est un prof de musique. Et il a racheté les instruments d'époque, tout refait. Et donc son disque, il a sorti un album que vous pouvez trouver, qui est un album un CD. Donc il a acheté les droits. Et il a fait un CD et il a fait un double vinyle qui lui est collector, absolument magnifique, avec des dessins originaux et tout.
Incroyable.
C'est vraiment un très très beau travail de recomposition et de réenregistrement. Donc son disque était très très bien. Et juste après, quelques années après, il y a les bandes originales ont été retrouvées et donc il y a maintenant une intégrale du Liste 31 qui est sortie en CD. Ça doit être un double CD d'ailleurs, avec un remixage moderne et tout. Le son est nickel. Donc aujourd'hui, on peut avoir une BO complète de cette série. Qui est fantastique. Honnêtement, il y a eu ça, il y a eu les Cités d'Or aussi, ouais. Dont déjà il y a un liste depuis longtemps.
Il y avait pas tant d'épisodes que ça de Ulysse.
Non, il y a une trentaine d'épisodes.
Ah oui, c'est peu, 31.
Mais c'est comme, moi je m'étais fait cette réflexion là sur Cobra. Et je crois que Cobra c'est pareil, il y avait pas tant
pas
d'épisodes
tant
que ça.
Ouais, ouais. Bah, Ulysse, ce qui est bien, c'est que ça crée, il y avait un arc complet, donc il y a une histoire qui a un début, ouais. Des aventures et une fin. Donc c'est une série qui est bouclée. Ce qui n'était pas le cas de la Cité d'Or, même s'il y avait une fin plus ou moins, enfin ça se terminait plus ou moins, mais ils ont pu refaire une suite après, bien plus tard. Mais Ulysse, c'était vraiment une histoire complète.
Cité d'Or avec un thème incroyable, enfin ouais, un opening fou de vraiment fou.
Ouais, moi j'aimais pas le dessin animé, mais je kiffais le thème.
La musique est trop bien et qui est composée aussi par Rahim Saban, ce mec est partout quoi. À cette époque-là,
surtout, ouais, à l'époque il a fait des choses formidables. Enfin, en tout cas, voilà, une BO qui me ramène dans l'enfance et une BO que je trouve réellement super intéressante et ça change un peu du score traditionnel.
Ouais, ouais. C'est plus original. C'est quoi pour vous le plus beau morceau qui a été composé pour un film Werner? Est-ce que tu veux te lancer?
Bah écoute, on peut commencer. Moi, j'ai pensé à The Last Waltz, de Cho Young-wook.
Ok.
J'ai retenu le nom, donc pour Old Boy, donc le morceau de fin du film Old Boy.
Ah oui, bien sûr.
Et pourquoi je me suis dit que ça? Parce qu'en fait, je me suis dit que le morceau en tant que tel, si t'as pas vu le film, il a vraiment un truc, vraiment, c'est vraiment une valse, quoi. Mais c'est une valse qui est vraiment, je trouve, très bien produite. Et c'est vraiment, en termes de mélodie, je trouve ça hyper efficace. Et genre, tu la retiens instantanément, cette foutue mélodie, tu vois. Genre, vraiment, elle me rendait fou. Et quand tu vois le film, elle prend encore une autre teneur parce que t'as tout ce truc de ce film qui a une histoire horrible.
T'as tout le poids de l'histoire qui revient. Mélange avec ça.
Et qui, en fait, crée une couche de mélancolie en plus, okay, tu vois, et qui est genre, qui donne une puissance, je trouve, au morceau, et qui fait aussi que c'est un très bon morceau pour moi, dans le sens où il marche dans les deux, quoi. Dans les deux cas de, t'es pas obligé d'avoir vu le film pour apprécier ce que tu vois là, où la musique t'emmène et tout, et ça crée une ambiance qui est vraiment intéressante, et en même temps, quand t'as le film, t'as un truc en plus non négligeable, quoi. Donc moi, j'ai pensé à ça, je me suis dit, c'était un bon exemple, je pense,
Et t'avais connu le morceau avant le film ou c'est avec le film que t'as connu le morceau?
Ah, moi c'est avec le film, ouais, je me suis pris la claque comme ça, quoi.
Ce que tu dis, c'est vrai, c'est que l'intérêt, enfin une grande qualité pour une musique de film, sans être expert et sans vraiment maîtriser ce sujet-là, je pense que c'est quand l'association de l'image, enfin de la mise en scène, du film, quoi, de tout ce qui est visuel et du son, de la musique, qui crée quelque chose de nouveau, quoi.
Et surtout quand elle est dosée, en fait. Quand t'as un vrai dosage et qu'aussi, quand t'as des œuvres qui savent aussi gérer le silence, tu vois, pour ensuite mettre encore plus en valeur leur thème et tout, c'est là que ça marche vraiment, parce que même tu peux prendre les dernières productions Marvel, bah, il y a beaucoup de musique, il y a tout le temps de la musique, en fait.
Ouais,
et genre, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et en plus, vu que c'est toujours des musiques un peu composées à la dernière minute avec cause des productions.
Ouais, comme disait la vidéo de Every Frame a Painting sur le sujet. La dernière vidéo d'Every Frame a Painting.
Tout à fait, ouais. Mais même en plus, post Every Frame a Painting, t'avais toute cette logique aussi de time track.
Ouais.
Donc, les morceaux temporaires qui étaient appliqués au montage pour essayer de donner une sorte de
ligne directrice. Hein, depuis très très longtemps, ce qu'il y a, c'est qu'avec les productions Marvel, en fait, depuis des années, Hollywood impose aux compositeurs d'arrêter de faire des thèmes. C'est devenu une obsession. Il ne faut plus de thèmes marquants, il ne faut plus de trucs que les gens puissent...
Ce qui est complètement con.
Ce qui m'hallucine.
Ouais.
Donc aujourd'hui, la BO, c'est plus de l'effet sonore que de la vraie musique qui accompagne. Donc,
mais surtout, c'est une décision qui est hyper étrange, parce que quand tu penses à la musique de Marvel, t'as quand même le thème d'Alan Silvestri des Avengers.
C'est le seul.
Et genre.
Mais tu sais pourquoi? C'est parce que derrière, t'as Joe Johnson, qui est un vieux de la vieille, qui a fait le premier Captain America, et qui a dit à Silvestri, mais vas-y, moi j'ai besoin d'un thème de héros. Et d'ailleurs, le film, c'est un des meilleurs, je trouve, du MCU. Ouais. Toute la première partie est vraiment construite comme un film d'époque. Et ça marche. Et donc, lui, il a réussi à imposer ce thème-là Il y a le thème d'Avengers
ou
pareil avec Sylvestri, mais okay. c'est un des seuls trucs qu'on retient du MCU, hein.
Et en plus l'aveu d'échec, c'est que par exemple la grande scène finale de Endgame, ils utilisent le thème des Avengers parce que je pense que la production se rend quand même bien compte du poids symbolique de cette BO et à quel point elle est galvanisante, quoi.
C'est aussi qu'elle a été utilisée énormément. Je m'en souviens très bien, en 2013, à l'époque des deux premiers Avengers, personne pouvait citer le thème d'Avengers. C'est aussi qu'il a été utilisé. En fait, on nous l'a martelé ce thème, et donc à un moment il est rentré en tête. Mais de base, il était pas. Dans mon souvenir, il était pas si marquant que ça à l'origine.
Ouais. C'était du Sylvestri un peu feignant.
Oui, ça c'est pas.
On nous l'a mis en fanfare à la fin de Endgame.
Et Dieu sait si j'aime Sylvestri.
Ah, je suis d'accord.
Et toi, du coup, David, ce serait quoi
C'est extrêmement difficile parce que il y a tellement de films qui ont des BO extraordinaires. Donc, c'est évidemment lié à ce qu'on aime, si tu veux. Si pour moi le meilleur morceau de BO dans un film, c'est lié au film un des films que je préfère. Donc, c'est probablement L'Empire contre-attaque.
Ouais.
Qui est pour moi le summum. De ce que Star Wars a pu donner de mieux en termes de cinéma, même si j'adore le premier, enfin la première trilogie de manière générale. Et Williams était au pinacle de ses capacités, même si il a continué à faire des BO incroyables jusqu'à Harry Potter et après. Mais L'Empire contre-attaque, c'est un score dément, hein, d'une richesse, d'une avec un nombre de thèmes hallucinant. Et il y a dedans une scène de bravoure avec un morceau qui va avec, c'est la scène de poursuite dans les astéroïdes. Et du moment où Han Solo, la princesse et ses trois PO s'enfuient avec le faucon de Hoth, jusqu'au moment où le faucon plonge à l'intérieur de l'astéroïde, bah cette scène musicalement c'est une folie, quoi. Ça monte, ça descend.
Mais c'est vrai que c'est pas le premier qu'on cite, mais ça en reste un qui est très marquant.
Un morceau incroyable. Asteroid Field de John Williams, c'est un morceau incroyable. Et c'est un morceau qu'on peut écouter tout seul, qui est d'une grande virtuosité. Et en même temps, ça colle tellement aux images. Et, enfin, c'est vraiment le travail de Williams en général sur les films auxquels il a participé. Tu retires son boulot, le film perd 50% de son efficacité. Ouais. Bah, retire Williams des Aventuriers de l'Arche Perdue, retire Williams de Superman, retire Williams de Harry Potter. D'un seul coup, voilà. Bah, d'ailleurs, quand Williams a arrêté de faire Harry Potter,
ça se sent
terrible.
Même s'il y a eu des bons copos, mais c'est pas
ça. Ça se sent vraiment. Et moi, je me suis aussi fait cette réflexion-là pour les grandes franchises qui perdent leurs compositeurs. Spider-Man 1 et 2, la musique est impeccable. Il faut toucher à rien. Et Spider-Man 3 arrive et tu fais ça rame hein, quand même.
C'est pas la même chose. Mais pourtant, je trouve que ça passe quand même. Ça, il a quand même réussi à s'en sortir un petit peu sur le.
Oui, mais c'est pas le même niveau.
C'est vraiment pas le même niveau. En fait, tu sens que. Et Harry Potter, c'est fou, quoi. Harry Potter, il part au 4, je crois. Le 4, il est plus là, Williams. Il est là sur les 3 premiers ou sur les 2 premiers?
Il est là sur les, il est là sur les 3 premiers parce que même quand c'est pas lui, c'est ses copains. Donc, donc ça reste dans la même veine.
Et je me souviens que assez récemment, là, il y a un an, je me suis refait tout le Harry Potter et en fait, quand il y a plus Williams, tu fais, c'est exactement pareil.
Tout le côté féerique, tu le perds.
Ouais, moi, je trouve que tout le
côté un peu féerique, mais enfin,
tu sens vraiment que c'est pas le même niveau, quoi. Tu sens que t'as perdu du talent au passage, quoi, dans Spider-Man 3 ou dans Harry Potter 4.
Mais après, le score de Williams sur la prélogie Star Wars, pour moi, c'est un des rares bons points de la prélogie et c'est un des trucs où vraiment
Williams a éclaté sur la
prélogie, quoi.
Williams a jamais démérité, c'est un type qui, même. Bon, je veux dire que Indy 5, c'est peut-être le film de trop en termes de composition, hein, parce que j'ai trouvé que le score était quand même très très faible et très répétitif et très redondant de choses qu'il avait fait. Mais bon, il a 93 ans, donc à un moment, faut pas lui en vouloir. Mais tout ce qu'il a fait depuis 50 ans, il y a pas beaucoup de fautes de goût, il y a pas beaucoup d'erreurs de composition. C'est juste qu'à un moment, t'as des enchaînements de scores quand t'enchaînes Les Aventuriers, L'Arche perdue, L'Empire contre-attaque, E.T., en 2-3 ans, enfin, t'as fait Superman juste avant, et t'écoutes tout ça, puis c'est des heures de musique, hein, c'est pas juste quelques thèmes. Tu t'as dit, mais le mec, comment il fait pour arriver à être aussi productif, aussi créatif, original, à créer des thèmes aussi incroyables. Et bah, la fin d'E.T., c'est pareil, je le mettrais peut-être dans le top, tu vois.
La musique de E.T.
La musique de fin, quand il quitte E.T. et que la soucoupe s'en va. Mais c'est les poils qui se dressent tellement le truc est puissant, c'est incroyable. Donc voilà, l'Empire contre-attaque, Asteroid Field, pour moi c'est mon préféré, c'est okay. le meilleur de ce que la musique de film a pu donner.
Carrément. Et petite question un peu particulière, qu'est-ce qu'il y a comme musique qui ne colle pas au film? On peut commencer par David et repartir sur Werner, comme ça on fait on échange de tour. Quelle musique ne colle pas à son film?
Alors j'ai un exemple très précis en tête parce que c'est un film que j'aime bien.
Ouais.
Mais qui m'a été gravement gâché avec la musique. Mais il y en a d'autres comme ça. Il y en a plusieurs. Ouais. Et justement, il y a plusieurs films de fantasy. Alors le premier que je citerai, c'est Lady Hawk de Richard Donner. J'aime beaucoup Richard Donner.
Ouais.
Mais la musique de Lady Hawk, c'est juste pas possible. C'est une espèce de... On dirait Champs-Élysées de
Jodassin.
L'émission de Drucker.
Moi, j'ai été resté sur Jodassin.
L'émission de Drucker. C'est une espèce de disco et c'est un truc de fantasy. T'as Roger Hauer qui fait un guerrier, t'as Michelle Pfeiffer qui est plus belle que jamais, t'as Matthew Broderick qui est vachement bien d'ailleurs dans ce rôle aussi. Et le film pourrait être sympa s'il y avait eu derrière, c'est Basil Poledouris par exemple qui nous aurait fait un score médiéval bien péchu et tout. Mais il n'était pas le seul à pouvoir le faire, il y en avait d'autres.
Ouais.
Mais je sais plus comment il s'appelle le compo de, je l'avais noté, je vous l'avais envoyé d'ailleurs, le compo de Lady Hawk. Pour moi, ce score, c'est pas possible. Alors, à la rigueur, à écouter sans la musique.
Pourquoi pas?
Pourquoi pas? Mais sans le film, je veux dire, mais ça va pas. Mais il y a un autre.
Andrew
exemple.
Powell.
Andrew Powell, ouais.
Tu l'as eu avant moi, salaud.
Enfin, bref. Ça ou par exemple un film qui était pas très bon Red Sonja avec Schwarzenegger et Brigitte Nielsen.
J'ai pas vu du tout.
Qui est une production des Laurentis qui s'est fait à la suite des succès des Conan.
Okay, ouais.
Conan chef-d'œuvre, deuxième Conan
moins chef-d'œuvre.
mais par contre un score magnifique de Paul Edouris qui lui a pas démérité entre le premier et le deuxième film. Et puis Des Laurentiis sent qu'il y a un créneau, il y a un filon. Il a acheté les droits de Ward de Red Sonja de ce bouquin et il en fait un film. Il appelle Schwarzy, il l'arnaque complètement parce que je crois qu'il tourne une semaine et puis absolument tout ce qu'il a tourné est dans le film.
Okay.
Et donc lui, ils l'ont mis en énorme sur l'affiche alors qu'il était là juste pour filer, en gros pour rendre service à Des Laurentiis et aider la production parce que il avait été bien lancé grâce à Conan. Donc, Schwarzenegger, a priori, n'a pas été très content de ce truc-là. Et derrière, le score est confié à Ennio Morricone. Alors, je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent vont se dire, oui, mais Ennio quoi, Morricone. Qui, probablement, avait des impôts à payer ou une piscine à refaire.
Parce qu'on sent qu'il
en avait rien à battre. Mais pas que le score est pas bon. Parce que, en fait, quand t'écoutes le thème, par exemple, il est vachement sympa. Mais pas dans ce film-là. C'est une espèce de petit thème léger, un peu historique. J'aurais bien vu ça sur un truc du 18e siècle, tu vois, ouais. Mais une histoire, un truc classique. Mais dans Red Sonja, ça va pas. C'est pas du tout épique. C'est pas du tout. Clairement, Morricone, il a fait des chefs-d'œuvre.
Il y a le même problème dans un film qu'on a traité assez récemment,
L'Exorciste 2, qui est toujours la compo de Ennio Morricone.
Et la musique est trop bien, mais qu'est-ce qu'elle fout là.
Mais parce que Morricone, on en avait parlé dans Total Tracks, Morricone, il faisait un peu ce qu'il voulait.
Ouais.
Alors, d'abord, c'était une star, quand même, parce qu'il s'est très vite, il a cartonné.
C'est peut-être pour ça aussi qu'il faisait ce
qu'il voulait. Et donc, quand on l'engageait, les gens étaient contents de l'engager. Et donc, je pense que quand le film l'intéressait pas, il faisait ce qu'il avait envie de faire. Enfin, il s'amusait. Pas qu'il s'y impliquait pas, hein, mais je pense que il est à son idée. Et donc, comme c'est Ennio Morricone, parfois les réals, ils osaient pas dire, oui, mais là, ça me va pas trop.
C'est pas terrible.
Sauf Carpenter qui a viré trois quarts des musiques qu'il avait fait pour The Thing et qui a fait les trucs lui-même avec son synthé dans son coin.
Ouais.
Mais voilà. Morricone, même dans les années 80, il nous a gratifié de scores absolument incroyables comme les Incorruptibles, Mission, donc. Un truc comme Mission, c'est à tomber par terre.
Oui.
Mais il y a des films, je pense qu'il en avait rien à battre. Et donc,
L'Exorciste 2, c'est vraiment très étrange.
Je pense que l'Exorciste 2, ouais, ça n'a pas dû le passionner. Ouais. Donc, il a
le film est vraiment pas bien.
Le film est pas bon. Le film n'a aucun sens et le score n'a aucun sens avec ce film. Mais moi, j'aime beaucoup la musique. Hein. La musique, je la trouve en,
mais voilà, c'est ça.
En soi, je la trouve vraiment
bien. Ouais, c'est ça. La musique, tout ça. Donc, c'est en ça qu'une musique colle pas à son film. C'est souvent quand elle a pas grand chose à voir avec l'idée qu'on peut s'en faire.
Il y a quelqu'un qui dit le thème de Kalidor, il est bien, mais on l'entend 15 000 fois à travers le film.
Et puis, je le trouve quand même, c'est un petit truc un peu léger. D'ailleurs, si vous voulez écouter, vous pouvez l'entendre sur, je sais pas si c'est sur France Musique ou sur classique, le truc de musique classique là.
Ouais, France Culture.
Non, c'est pas France Musique justement, c'est France. Radio Classique.
Hein, okay.
Sur Radio Classique, je crois que le matin, il y a une émission et je crois que le thème de l'émission c'est le thème de Red Sonja.
Ah, c'est drôle.
Quand on pense au film avec. Avec c'est Paul Smith, je crois qu'il y a un gros os qui tape sur la tête des gens. Enfin, tu dis what the fuck, quoi. Et donc c'est marrant que ça se retrouve comme thème générique d'une émission sur Radio Classique. Mais voilà, le score, il fait très classique. Ouais. Et c'est vrai que le thème, il est vachement bien, mais il est un peu très sautant, tout gentil.
Il colle pas au film, quoi.
Non. Il y a des gros barbares, il colle pas au film.
Et toi, Werner, c'est quoi ton exemple de thème
toi,
qui colle pas au
film? Toi, t'as fait un choix qui est assez curieux.
Ah, mais écoute.
Non, mais que je comprends complètement.
J'ai envie qu'on parle de Suicide Squad.
Ok.
Ah. En fait,
les sujets qui fâchent.
En fait, quand j'ai lu la question, c'est directement ça qui m'est venu en tête. Parce que je me suis dit, mais parce que c'est même, en fait, ça se voit que c'est juste du forceps, quoi. Mmh. C'est vraiment, tu colles tout au forceps. Tu vois que, ça a été, en plus, les morceaux, ils sont choisis. Il y a des trucs ridicules. Ouais. Genre, l'exemple qui revient tout le temps, mais à juste titre, c'est Sympathy for the Devil, qui est casé n'importe comment, même de mettre
House of the Rising Sun. Il y a une prison en Louisiane, oui, voilà. House of the Rising Sun.
Ouais, voilà.
C'est vraiment, mais vous êtes bêtes, quoi.
Et on se dit, mais
idiot aussi.
Mais c'est un process vraiment putassier, quoi.
Tu te dis que les mecs, ils ont fait leur compile, que c'est ça qu'ils doivent vendre en CD ou en démat, et qu'en fait, que ça colle ou pas au film, ils s'en foutent.
Ouais, ils veulent vendre des vinyles.
Il y a très peu de compositions, en fait, dans ce film.
Non, mais il y en a très peu.
Il y a un score.
Personne ne s'en souvient, même, parce qu'en même temps, le film, on n'a pas envie de s'en souvenir, tu vois, genre, mais.
C'est vrai, c'est vrai.
Mais il y a ce truc de, moi, je trouvais ça, vraiment, fascinant, parce que de ce truc de vraiment, genre, parce que je crois que avant, je sais même pas à quel point le score, le needle drop, donc l'usage de musique préexistante, était déjà pensé à l'écriture et durant le tournage du film.
Ça a été vachement.
Mais ça a été, à mon avis, vraiment poussé au montage et ce qui
cause
fait
de
que.
Il y a toute l'histoire de, il y avait Queen sur la bande annonce et il y avait une ambiance très pop et le film a été remonté pour coller à cette ambiance-là.
Ouais.
Et je pense que c'est là où ils se sont dit, mettez-moi du Eminem, mettez-moi nanana.
Oui. Et je trouvais que c'est ça, faut vendre le film sur des noms de chanteurs, quoi.
Et vraiment, je trouvais ça fou la malhonnêteté du procédé, quoi. Et c'est pour ça que je me disais ça colle pas,
parce
que
la
malhonnêteté du film en général, c'est clair. Mais j'étais vraiment j'étais fasciné par ce que je voyais, parce que j'étais, mais on dirait vraiment que c'est un montage, je sais pas moi, de lycéen, quoi, qui se dit je vais prendre le film, je vais couper la musique et je vais mettre ça, quoi.
Il y a énormément de compos originales pour Suicide Squad. Il y a bien sûr que si, il y a genre au moins 7 morceaux originaux, je crois, dans Suicide Squad, et qui ont tous été dans le hit parade, comme on dit. Ils ont tous.
Ah, surtout c'était 21 Pilots pour le générique de fin, où c'était devenu un tube instantanément.
C'est vrai.
Ouais. La reprise de Don't Tell Me What To Do, là. You Don't Know Me.
C'est bien, vous m'avez perdu, là.
Mais voilà, moi, je pensais à ça, je me suis dit, c'était assez fascinant comme, comme truc, quoi, comme accident industriel, pas non plus qu'au niveau cinématographique, quoi, aussi au niveau musical.
C'est un ensemble.
Ah, c'est vraiment quelque chose de fou. C'est assez fou, quoi.
Et, alors, question, David, tu vas pouvoir nous répondre. Werner aussi, t'inquiète. Quelle est selon vous, les gars, la meilleure association compositeur-réalisateur?
C'est trop facile.
Mais peut-être qu'il faut aussi redire.
Pour moi, il y a des évidences, quoi. Enfin, je pense qu'on est d'accord.
La plus connue, la plus évidente, c'est William Spielberg.
Évidemment.
Mais
évidemment.
Ça, tout le monde va la citer. Après, il y en a des moins connus et qui sont quand même super producteurs, qui ont donné des scores incroyables, qui, pour moi, Une de mes préférées, c'est le travail de Jerry Goldsmith avec Franklin J. Schaffner. Donc les noms vont pas vous dire grand-chose. Alors, Goldsmith, c'est un des grands compositeurs de la musique de film, mort au début des années 2000 d'un cancer, malheureusement. Et Franklin Schaffner, c'est le réalisateur de films comme La planète des singes de 1968. Hein, on parle pas du remake Papillon, des films extraordinaires, Patton. Et Goldsmith a travaillé beaucoup avec Schaffner, ils s'entendaient énormément, ils avaient été vraiment sur la même longueur d'onde, et il a pondu des scores absolument merveilleux pour Schaffner. C'est super inventif, c'est très 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 belle collaboration. Mmh. On peut se replonger dans les scores de l'époque. Et puis autre collaboration de Goldsmith qui a eu un coup de cœur avec ce réalisateur, c'est avec Joe Dante. Donc Gremlins, L'aventure intérieure,
le thème de Gremlins.
Pratiquement tous les films de Joe Dante, c'est une musique de Goldsmith, et ils s'entendaient très bien. Donc ils adoraient travailler ensemble, et ça se sent en fait quand tu t'écoutes, quand tu vois le film. Tu sens que Goldsmith,
il avait une liberté totale sur Gremlins.
Totalement libre de faire tout ce qu'il voulait. Ils avaient une confiance mutuelle. Mmh. Et Goldsmith le rendait bien. C'est-à-dire que c'est un compositeur qui n'hésitait pas à mouiller vraiment la chemise pour sortir la meilleure BO. Et d'autant plus si c'était quelqu'un qu'il aimait. Pour Schaffner, un des derniers films que Schaffner a réalisé qui s'appelle Lionheart est un film catastrophique. Mais quand je dis catastrophique, c'est regardable. Okay. C'est improbable. C'est un film avec Erich Stoltz, quasiment introuvable, hein, parce que le film est très peu sorti. On dirait du téléfilm mal foutu. C'est une horreur.
J'ai trop envie de voir ça maintenant.
Et Goldsmith a fait un score, mais extraordinaire. Il y a même un double vinyle, un double CD maintenant chez Varese, parce que c'est son ami, c'est Schaffner. Donc, il s'est lâché sur des thèmes gigantesques.
C'est ça, là?
Ouais, c'est ça. Lionheart. Très 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 beau visuel d'ailleurs. Ça donne vraiment envie, hein. Moi, je pense que le
petit visuel VHS.
Oh, merveilleux.
Le film promettait, puisque c'était l'histoire du jeune Richard Cœur de Lion, ça promettait d'être un truc super. En plus, Franklin Schaffner, donc un réalisateur énorme. Et bah, c'est une catastrophe. Mais par contre, Goldsmith a fait un score énorme. Donc, comme quoi, quand on
a les bons copains et qu'ils savent jouer
bien, voilà, ça aide les compositeurs à sortir le meilleur.
C'est clair. Puis il y a vraiment une forme d'évidence, quoi, dans la musique de Goldsmith.
C'est vrai qu'il y a d'autres évidences là que le chat relève. Il y a Ennio Morricone,
Hitchcock, Herman,
Nolan Zimmer. Effectivement, il y a des associations.
Alors c'est laquelle tu pensais?
Ouais, à laquelle tu pensais toi? Alors,
du coup, moi je m'étais dit évidemment l'évidence Williams Spielberg, mais je me suis dit que j'allais profiter de la question aussi pour voir un duo qui m'intéressait, qui m'intriguait pour le futur, quoi. Et j'ai pensé à David Robert Mitchell et Disaster Piece.
Ah putain, oui.
Parce que moi j'aime beaucoup Disaster Piece, je l'ai connu avant en fait les films de David Robert Mitchell, parce que c'était avant tout un compositeur de jeux vidéo à la base, qui était très émergent, enfin qui a vraiment apparu avec la scène émergente des jeux indés début 2010. Il avait fait Fez.
Ouais,
tu vois. Et après il s'est fait aussi vraiment beaucoup remarquer sur la musique de Hyper Light Drifter. Je sais pas si vous voyez. C'est un jeu indépendant aussi qui est super, que je recommande à tout le monde. Avec un score exceptionnel de musique électronique 8 bits qui est mortel.
Génial.
Et donc en fait quand je l'ai vu dans It Follows, et avec ce main title qui devient tout de suite iconique avec ce synthé qui fait enfin, je trouve ça marche quoi, et Et le fait que après avec Under the Silver Lake, il continue cette collaboration qui a toujours du sens, et en même temps, ce qui est bien, c'est que Disaster Piece, il a ce côté un petit peu multifacette. Il peut avoir des fois ce côté, on pourrait dire, oui, il va faire que des trucs très électroniques, très synthétiques, machin. Mais même par exemple, dans Under the Silver Lake, il y a quand même des parties un peu plus orchestrales. On sent qu'il développe sa palette.
Ouais. Et la musique a une place hyper importante dans ce film-là.
Et complètement. Et il y a vraiment aussi ce truc d'alchimie un peu, comme tu disais avec Dante et Goldsmith, quoi. Il y a vraiment ce truc de, je sais pas, je me dis que vraiment, même pour The Follow, je me dis, il y a quand même de l'espoir que ça devienne un duo qui soit.
J'ai rien pour The Follow.
Donc vraiment, j'ai envie de voir, quoi.
Ce qu'on disait il y a deux semaines, c'est que David Robert Mitchell, malheureusement, a pas eu l'occasion de faire énormément de films à cause du four de Under the Silver Lake, qui est un film de zinzin. Il faut trop voir ce film. Je le trouve génial. Et donc, ouais, on n'a pas eu beaucoup l'occasion de voir cette collaboration entre ces deux artistes.
Mais j'ai beaucoup d'espoir dans cette collaboration. Je me dis que pour la décennie à suivre, il y a moyen que ça fasse partie des duos vraiment emblématiques de réal et compositeur quoi.
Ouais. C'est okay. Bien, on est complémentaires. Moi, je parle des vieux, tu parles des jeunes.
Ouais. On se fait des magnifiques passes entre tradition et modernité.
J'imagine que le chat t'as dû citer plein d'autres collabs comme Elfman, Burton,
Miyazaki, Isaichi,
évidemment. Il y a beaucoup de, d'évidence.
Oui, il y a beaucoup de collabs compositeurs, réalisateurs et qui ont donné des trucs vraiment bien.
Ouais.
Moi, j'ai envie de vous poser la dernière question avant de passer à un jeu. C'est pour vous, quel est le meilleur opening musical d'un film ?
Tu veux commencer, Werner, peut-être ?
Bah, je vais commencer. Ouais, il y a un de mes films préférés qui est évidemment Blade Runner, la musique de Vangelis, le main title de Vangelis.
Génial.
Qui est
tellement d'accord.
Qui est, déjà Vangelis, artiste extraordinaire. Déjà, enfin, pilier de la musique électronique, paix à son âme, artiste monstrueux, quoi. Et puis qui déjà durant donc l'ouverture, déjà tu crées, il y a ce truc très vaporeux, très atmosphérique, beaucoup de d'espace en fait, c'est pas des accords qui sont très rapides, très accélérés, tout ça, il y a vraiment ce truc de laisser place à une ambiance.
Il y a que sur le end title qu'il y a un thème un peu rapide.
Ouais, complètement.
Tout le reste c'est hyper planant. Hein.
Complètement, mais alors, d'ailleurs c'est un choix assez particulier.
Ah mais c'est génial.
Bah,
c'est
ça génial parce que dans l'univers aussi je trouve.
C'est un choix de Scott que je trouve. Autant j'ai beaucoup de critiques à émettre auprès de Ridley Scott, mais ce choix d'avoir justement pas pris Goldsmith, parce qu'il aurait pu, il s'était bien entendu sur Alien, il aurait pu reprendre Jerry Goldsmith. Il voulait d'ailleurs, je crois, à la base, et Goldsmith a dit non, tu fais chier, parce qu'il avait pris tellement d'autres musiques de Goldsmith dans Alien qu'il a été casé, etc. Mm. Bon, ça c'était à ce niveau-là, c'était un peu plus grinçant. Mais ce choix de Vangelis, franchement, c'est improbable.
Mm.
Parce que même si Vangelis avait fait l'Apocalypse des animaux, ou je sais plus comment ça s'appelait, qui était une musique de film sur un documentaire, enfin bon, okay. C'était pour un film de science-fiction, on pensait pas à lui, vraiment pas, quoi. Parce qu'en plus, la mouvance de l'époque, c'était de faire du score symphonique. Et pas du tout du score électronique.
Ouais.
Aujourd'hui,
c'est une évidence, en fait, de faire
quand
ça.
Quand j'ai vu le film, et j'ai dit, mais chapeau, quoi.
Ouais.
Quelle idée géniale. Et puis, alors, Vangelis, évidemment, a fait un score remarquable. Ouais.
Pour moi, c'est la collaboration qui a amené, mais c'est purement subjectif, hein, le plus beau morceau, le plus beau morceau de film qui est Memories of Green. Que je trouve, c'est un morceau absolument magnifique au piano, c'est incroyable. Mm. C'est le moment où il parle
avec Rachel.
Avec Rachel, exactement, où il découvre et il discute avec elle et tout. Le morceau, moi, ouais,
mais il y a rien acheté, hein,
non. Ah ouais. Non, il y a rien.
Il y a rien acheté. Après, on aime ou on aime pas le film, il y a des gens qui trouvent ça chiant, etc. Mais il y a une esthétique qui est incroyable. Évidemment, il y a les effets visuels de Douglas Trumbull qui sont juste à tomber par terre parce que vous les revoyez maintenant, 40 ans après, ça n'a pas pris une ride,
ouais.
Y a pas un truc qui marche pas. Et puis il y a cette ambiance, et puis il y a cette musique. Et c'est vrai que cette ouverture sur le Los Angeles de 2019, qui était une maquette immense, c'était gigantesque.
Ouais,
que
pareil,
j'ai vu à New York. Ce musée.
Voilà. Il en a de la chance.
Et cette ouverture est folle, quoi. Mm. Ce film est sublime,
ouais.
Donc je crois qu'il y a pas beaucoup de gens pour dire le contraire.
Ouais, quand même. Ouais, toi c'est ton choix.
Ouais, clairement. Mais
je comprends.
Mais en même temps, même la notion de spleen qui soit dans la réal et dans la musique, enfin ça me parle trop, quoi. C'est bref, c'est trop fort, quoi. Puis ouais, Vangelis, même en dehors, je conseille au chat de sortir même de cette BO et de pousser un peu de fouiller dans la discographie de Vangelis, parce qu'il y a vraiment plein de choses, quoi. Et même par exemple, sans Vangelis, il n'y aurait pas un Disaster Piece dont je parlais juste avant,
ouais,
quoi.
Ouais.
Il y a vraiment tout ce truc que vraiment l'impact que ce mec a eu est gigantesque, quoi. Et des fois j'ai l'impression que Vangelis, Blade Runner, c'est un peu une évidence, mais j'ai l'impression que c'est quand même important de le rappeler, parce que il y a quand même un truc c'est quand même vraiment monstrueux, quoi. Enfin, c'est incroyable ce qui a été pondu à ce moment-là.
Ouais,
quoi.
Comme tu disais à l'époque, du coup, c'était pas forcément une évidence.
Ouais, du tout, ouais, carrément.
De faire ce choix-là, à l'époque.
Ouais, clairement.
Et toi, David, du coup, ce serait quoi?
Alors moi, je vais vous surprendre, parce que justement, il y a tellement de films dont je trouve les openings extraordinaires. Mais il y en a deux, quand même, que je voudrais citer. Il y en a un, qui est un de mes films préférés de tous les temps, et c'est pas de la science-fiction, et c'est Amadeus de Milos Forman. Et l'ouverture musicale d'Amadeus. Alors, ça commence pas sur de la musique, puisque ça commence sur les deux valets de Salieri qui arrivent chez Salieri qui s'est enfermé. Et il voudrait qu'il ouvre la porte, parce qu'on sait pas ce qu'il fait. Puis en fait, il est en train d'essayer de se suicider. Et à partir du moment où il défonce la porte, la musique de d'Amadeus commence, enfin la musique de Mozart commence, et bon, c'est extraordinaire. Enfin, comment cette musique a été composée il y a plusieurs siècles colle tellement aux images. Ouais. Quoi. On dirait qu'elle a été composée pour le film. Et donc, si vous n'avez pas vu Amadeus, je vous recommande franchement de le voir parce que c'est un film incroyable sur la narration, sur sa narration, sur la création des personnages. Évidemment, ça n'est pas l'histoire de Mozart.
Non, bien sûr que non.
Oui. Au même titre que le Napoléon n'est pas l'histoire
c'est
de
ça,
Napoléon.
Faut pas voir ça comme un documentaire. Ouais.
C'est juste, voilà, une œuvre de fiction extrêmement bien faite. Alors, si vous avez la possibilité de trouver en pirate, parce que je vois pas comment, sinon, la version originale. Non rallongé de 20 minutes totalement inutile par Miloš Forman, mais qui a dit bon bah maintenant ça sera comme ça et ça sera plus la version. Donc il y a des DVD d'époque.
Mais il paraît que ça explique un truc.
Ça explique rien.
Pourquoi la femme de Mozart à un moment dégage Salieri. Je crois qu'il y a un truc un peu.
Oui
comme
parce
ça.
Que il a voulu abuser d'elle en lui demandant de revenir. Enfin il était à deux doigts de rompre son vœu de chasteté qui s'était imposé pour devenir compositeur et de coucher avec la femme de forcer la femme de Mozart de coucher avec lui parce que c'était une vengeance de plus sur Mozart mais il y renonce et donc la scène est clairement inutile à part voir le sein de la femme de Mozart c'est sans intérêt et moi je trouve que tous les ajouts qui ont été mis dans la version longue sont réellement sans intérêt et c'est dommage parce que la version courte non seulement est très bien équilibrée et parfaite en termes de montage. Et en plus, la VF a dû être refaite puisque c'était la version longue. Et il n'y avait plus la voix pour Salieri de Jean Topard, qui faisait la voix de Salieri dans la version française de base, qui est mais Jean Topard, quoi. Jean Topard, c'est les intros et les sorties de la Cité d'Or. Mmh. La voix off de la Cité d'Or, c'est Jean Topard.
La partie documentaire, ouais.
Mais sur Salieri, il est parfait. Et d'ailleurs, ça fait partie de ces VF extraordinaires. La VF d'Amadeus. Et donc voilà, l'ouverture musicale d'Amadeus, c'est un des trucs qui m'a marqué. Et autre film dans un registre totalement différent, c'est un Disney que j'adore, qui est pas un des Disney les plus connus, qui s'appelle Bernard et Bianca au pays des kangourous, qui est sorti la suite de Bernard et Bianca, qui est sorti juste après La Petite Sirène. Et il faut savoir que les process de fabrication chez Disney, en fait, c'était trois équipes qui tournaient. Parce qu'ils sortaient un film par an, mais c'était impossible de faire un film par an. Il fallait trois ans pour faire le film. Donc, il y avait trois équipes en parallèle qui faisaient les films et qui s'enchaînaient. Et donc, comme La Petite Sirène a cartonné, en fait, le film suivant, qui était déjà en production depuis deux ans, qui était Bernard et Bianca au pays des kangourous, mais qui était sur un registre complètement différent, Disney l'a pas promotionné, quoi, l'a laissé tomber. Et pourtant, ce film est génial.
J'ai vu quand j'étais tout petit, je l'ai jamais revu.
Ouais, je l'avais
revu. Revoyez la scène d'ouverture, c'est des images qui ont été créées par Pixar à l'époque, c'est un des premiers.
C'est celle-là ce qu'on voit. Ouais.
C'est ça, voilà, c'est l'ouverture qui est donc un long travelling à toute allure de Pixar et la musique de Bruce Broughton à ce moment-là est juste, elle est géniale dans tout le film, mais là cette ouverture, elle est folle et la musique est géniale. Bruce Broughton qui est un immense compositeur, encore une fois pas hyper connu. Mais dont les scores pour Silverado, pour Tombstone, pour Lost in Space, pour plein de scores géniaux. Et moi, j'adore Bruce Broughton. Et malheureusement, c'est pas un de ceux qui est le plus mis en avant. Et bon, voilà. Bah, cette ouverture, en tout cas, revoyez-la. Elle est superbe.
Jamais vu Bernard Bianca 2.
C'est très bien.
Là c'est drôle parce qu'on voit des images.
Tu me donnes trop envie de le voir.
J'ai vraiment envie de le voir. Ouais, je suis
très beau film.
Dans le chat,
il y a quelqu'un qui parle de l'opening de Social Network.
Bah oui, il y en a plein. Mais oui, voilà, mais je parle de ceux qui m'ont
bien sûr,
laissé
bien sûr.
Un souvenir.
C'était difficile de faire une sélection.
Voilà, c'est ça, qui m'ont laissé un souvenir impérissable.
C'est clair.
Évidemment, on pourrait parler de l'ouverture de Star Wars ou des ouvertures des films d'Hitchcock ou voilà. Mais voilà, je voulais plutôt mettre en avant.
Non, mais très intéressant vos choix. Vos choix sont originaux et c'était très intéressant de pouvoir en discuter. Mais maintenant, on a un petit jeu de ta composition. Ah. C'est le cas de le dire.
On a un jeu débile. Bon, il y a certainement dans le chat quelques personnes qui le connaissent déjà. C'est le jeu de l'harmonica, mais je vais vous réexpliquer très
Dieu
simplement.
Dieu que je suis heureux de participer à ce jeu.
Et moi donc.
Donc moi, voici. Je me suis fait spoiler. Tu me les as tous fait là cet après-midi. Donc je crois que je peux pas
non,
jouer.
Non. Wow, si jamais il y en a dont tu te souviens plus, c'est pas grave. C'est un harmonica. Je ne sais bien évidemment absolument pas en jouer.
C'est tout l'intérêt.
C'est tout l'intérêt. Et donc, du coup, je vais vous faire des morceaux, donc des partitions
mais tu
que j'ai
mal,
sous les yeux.
Quand même, hein.
Le problème, c'est qu'à force d'en faire dans cette émission, je me suis amélioré. Ça, bah si, c'est vraiment problématique.
Il y en a,
parce qu'il y a moins de...
Il y en a, ça va être à la rapidité, hein, parce qu'il les fait vraiment bien et tu reconnais.
Non, c'est pas vrai
si,
non plus.
Si, il y en a quelques-uns qui sont
vraiment... Je suis nul en jeu, donc je
bah, c'est pas...
non, je me sens pas prêt.
Non, mais ne t'en fais pas, je suis nul aussi, mais très compétiteur, donc...
Donc, ah, c'est ça, nous, on veut du sang, on veut de la...
Il y a pas de buzzer pour.
Il y a pas de buzzer.
C'est celui qui joue le plus fort, quoi.
Alors, on va commencer avec le premier morceau, celui qui va montrer, qui va faire découvrir mon art au monde.
Vas-y. Les aventures de l'arche perdue. Ouais.
Oh. C'est bien.
En vrai, c'est pas mal.
Oui.
Pas mal.
Si, ça va, ça va.
Ils sont tous de ce level-là.
Ouais, parce que d'habitude, vraiment, je joue extrêmement mal. Donc, à force, j'ai eu l'habitude de prendre des simples pour...
Le chat, je l'avais même pas. Personne l'a dit.
Ouais. T'allais très vite.
Non, mais...
Le chat, on va voir si vous êtes plus rapide.
Il y a trois notes.
Celui-là, il est hyper
là, c'est trois notes.
Hyper dur.
Je pense que c'était pas voulu, ça.
Attention.
Le parrain, c'est pas le parrain.
Je peux pas me concentrer, c'est terrible.
Si,
je
sais
même pas
si,
je rigole trop.
Attends, je vais peut-être mieux le faire.
On recommence. On n'abandonne pas.
Non, c'est
pas. On lâche
pas
l'affaire.
Non, mais ça me fait beaucoup rire, mais on t'abandonnera pas.
Vous l'avez pas?
Non.
Moi je comprends celui-là.
Non, je l'ai pas. Je l'ai pas.
Attends.
J'ose pas en fait.
Non mais si, non, mais... tu devrais, en fait,
je sais pas vers où aller là en fait, c'est ouais, c'est un
mais
peu
si,
vague.
Mais si,
c'est quoi Macadam avez... Cowboy?
C'est fou ça le parrain. Non.
On dirait vraiment
non,
le parrain mais ouais. Mal fait, ouais.
Attends.
Mais s'il se marre en même temps, c'est pas possible.
Oui, mais... film... Ah, c'est terrible. Film d'action des années 80.
Oh, putain.
Die Hard. Non, c'est pas Die Hard.
Enfin,
80, ouais, 80. Non, mais c'est pas ça.
c'est pas ça la mélodie. Oh non.
Non, c'est pas ça la mélodie, parce que j'aurais reconnu film d'action des années 80.
Non, mais c'est terrible. Hein. Je pense que quand je vais te le dire, tu vas dire c'était pas du tout ça.
Live and Live in LA.
Non.
Très bien, on va tous décider.
SF.
Oula.
Terminator?
Ouais.
Ah ouais.
Oh la vache.
Oh la vache.
Ah ouais.
T'as Brad Pitt, il se...
Ah ouais, c'est terminé.
Il vient de décéder, là.
Refais, attends, mais
je vois
pas terminé.
Oui, non, mais attends.
Non, t'aurais dû faire une note, t'aurais dû faire la rythmique. T'aurais dû faire...
Mais après, c'est la même note.
C'est la même note, tu sais. Et donc, là, peut-être que la rythmique, on aurait reconnu.
Peut-être que la rythmique...
Ah ouais, parce que là, c'est quoi, c'est le thème avec Sarah Connor et...
Non, c'est la suite du thème, en fait.
Ah, c'est...
Mais les notes y étaient, mais il n'y avait pas le rythme. C'est pour ça qu'on n'a pas reconnu.
Ça n'a rien à voir. C'est incroyable.
Non, mais les notes non, étaient mais... bonnes. C'était le rythme qui n'allait pas. C'est pour ça qu'on n'a pas reconnu.
Oui, bah,
après, t'es pas obligé de l'encourager non plus.
Il a massacré des BO, moi.
Ok.
Il a massacré la BO, quelqu'un dit.
Attention, prochaine, je pense que ça va être un petit peu plus sur.
Ouais, moi, je dis la ça, personne, ceci dit.
La personne qui a trouvé Terminator, elle a dit, j'ai trouvé juste parce qu'il a dit film d'action.
Oui, mais
il y avait le choix quand même, hein.
Alors, attention.
Elle est bien, celle-là.
Non, tu l'as pas?
Si, moi, je l'ai, mais je... Bah,
je l'ai, mais non. C'est Avatar?
Non.
Non.
Ah, je... Attends.
Il est bien, hein.
Oui, il est bien.
Il le fait super bien.
Celle-là? Ouais,
c'est
ouais.
C'est Pirates des Caraïbes.
C'est Pirates des Caraïbes.
Ouais. J'étais en train d'essayer de la... Ouais, bravo.
Ah, ouais.
Il y a Thomas qui l'a dans le chat. Bravo,
ah, ouais, c'était Pirates des Caraïbes.
Eh, ah, franchement, le chat...
Là, j'ai reconnu parce que j'étais
là,
en train d'essayer de me remémorer le thème.
Évidemment que je l'ai, ce morceau. Évidemment. Ah ouais.
C'est lourd.
Incroyable.
C'était bien.
Ah, c'était bien.
Eh, bon, ça s'améliore avec le temps.
Vraiment, c'est...
Attention, prochaine.
C'est bien aussi, hein.
Oh.
C'est super bien.
Là, tu l'as pas?
Ah, c'est oh, super!
J'ai tout le chat, le chat, tout le monde. J'ai la mélo dans la tête, mais incapable de dire le film.
Ah mais c'est là-haut.
Oui, c'est là-haut.
Ah oui, c'est l'intro. Ah oui.
Mais Newman, franchement,
franchement c'est bien. Hein. C'est bien.
Terminator,
c'est un massacre. Et là, c'est du
non, là-haut, ça, c'est bon.
On pourra faire une rétrospective dans un an ton niveau d'harmonica qui a explosé.
Ouais, et vraiment avec cette petite scène d'intro, c'est la musique.
La petite scène d'intro, moi je peux plus la revoir parce que je pleure à chaque fois.
Ah oui.
Tu vois, en opening, on n'y pense pas forcément, mais c'est vrai.
C'est tellement
un court métrage à part entière en fait.
C'est clairement le meilleur court métrage Pixar.
C'est fabuleux.
Ah ouais.
Non mais franchement félicitations,
très bien, tout le monde l'a eu dans le chat. Là-haut c'est bon.
Ouais.
Bah le prochain ça va être un massacre. Je préchote, ça va être un massacre.
Que...
Terminator 2.
Attention. Putain, j'ai envie de rire.
Ah oui, effectivement. Mais ça va. Non, si ça va.
Ah bah c'est
moi c'est Somewhere Over the Rainbow.
Oui, oui c'est ça, oui c'est
le magicien d'Oz.
Oui oui.
En fait
donc,
je me suis dit pas si mal. C'était pas si mal.
Non mais c'était pas terrible mais la franchement mélodie, t'as fait largement.
Non, la mélodie j'y étais. Je m'y croyais.
Somewhere Over the Rainbow, très bien vu.
Tout attention le prochain.
Le chat l'avait donc bien.
Ouais, mais je te dis je m'améliore de jour en jour.
Non mais les chats dans les chats il y a toujours des gens incroyablement forts qui
il y a aussi un paquet de focus.
À la puissance du collectif.
C'est bien.
Ah bah oui, c'est Spider-Man.
Ah
la,
oui.
série, la série télé,
ah oui. Télé Spider-Man. C'est
j'ai envie de me dire c'est Spider Cochon, je suis un dégénéré.
C'est ça. Bah oui, c'est ça.
Tout le monde est petit joueur du grenier.
C'est ça.
C'est vraiment ça.
Ah oui. Alors le tatac, je vais te retrouver. Voilà, c'est ça. Vous allez reconnaître aux trois notes de fin, je pense celui-là.
Ok. Ah.
C'est le dernier ou pas?
Non, j'en ai un après encore.
Ah.
Un bonus.
Ah
ouais, un rappel.
Super dur.
Le dernier ?
Ouais.
Le dernier est dur. Le dernier est vraiment dur.
Ah oui, c'était pas notre
qui est. Je l'ai. Attends, merde.
Attends, je te refais les derniers. Oui, bah oui.
Le bon bah, c'est le
bon abri très long. Oui, c'est Ennio Morricone.
Bravo, bravo.
Oui.
On aurait pu en attendre un autre de Morricone dans lequel il y a vraiment du
de l'harmonica.
De l'harmonica
oui, mais... tu vois, je me ridiculise déjà pas mal.
Et le dernier est super dur.
Le dernier est dur.
Je connais même pas la musique, je sais même pas si...
Moi, je pense que si je le fais correctement, chose qui n'est pas sûre à 100%, mais qu'on peut l'avoir.
Ok, on est prêt.
Bon, on y croit.
Je trouve qu'on n'a pas été mauvais.
Hein. Ah non,
franchement, ça va.
Très bon.
Ça va.
Attention.
C'est
ça. Vraiment bien.
Ah bah c'est Tex Avery.
Non.
C'est pas non. La chanson de la...
Mais c'est vraiment difficile de faire l'association avec les deux. Oh, le chat vous l'avez. Bravo. Masqué que tu l'as.
Là tu l'as pas. Là je l'ai fait en entier le...
Ah ouais. Mais moi le début m'a eu, bah j'ai cru que c'était du Stéphane Echer tellement je suis fou.
Film d'animation.
Film d'animation.
Bah oui.
C'est même pas un film à la base.
Non, c'était même pas. C'était même pas une série.
Non, c'est une série de court métrage.
Voilà.
C'est un court métrage.
Je vous le refais un coup.
Ah mais je connais cette mélodie.
Le chat dit GG. Franchement, c'est vraiment bien. Tout le monde là dans le chat.
C'est vrai, ouais, dans le chat. Non, anglais ?
Les anglais ?
En pâte à modeler ?
Ah, bah c'est Shaun le mouton.
Non !
Bah, c'est l'autre alors.
C'est l'autre ?
C'est.
C'est pas Chicken Run, non ?
Non, c'est pas Chicken Run.
Là, c'est Gromit.
C'est Wallace et Gromit.
Wallace et Gromit, bien sûr.
Ah putain.
Et pareil, c'est des films, j'ai vu Wallace et Gromit quand j'étais tout petit.
Ouais, mais Wallace et Gromit, le morceau, il est populaire. Oui, oui. Ouais, pour moi, il est, ouais. C'est quand même.
Et ça ressemble au morceau de la chanteuse dans Tex Avery. C'est un peu les mêmes, c'est un peu les mêmes notes.
Ok.
Et mais ça c'est beaucoup plus vieux.
Non, franchement, félicitations.
Non, bravo. Franchement,
ah, bah, oui, oui, je voilà, sais pas lequel d'entre maintenant vous. Que, maintenant qu'on le sait, en fait, c'était évident.
Ouais, c'est vrai que moi, je l'aurais pas du tout associé à Wallace et Gromit, mais la musique est très bien faite. Hein, mais je sais pas si j'aurais fait l'association mentale. Hein,
non, mais je comprends. On va parler de base. On devait parler d'actu ciné, du coup,
mais
pas du
mais
tout.
Mais non, mais on peut peut-être faire l'actu de nos invités, non?
Ah oui, c'était après, mais on peut le placer maintenant.
Ouais, parce que c'est peut-être le moment d'en parler. Werner, on commence par toi.
Allez.
Tu viens de sortir une vidéo?
Tout à fait, qui est sortie hier.
Une vidéo qui parle de John Denver.
John Denver et
de la raison pour laquelle il est
utilisé
présent
au cinéma, quoi. La vidéo, elle part d'un postulat qui fait que, en 2017, il y a 5 films qui avaient du John Denver qui sont sortis. Il y avait Kingsman 2, Alien Covenant, Free Fire, Logan Lucky et Okja. Tu n'oubliais aucun.
Ce qui est bizarre, quoi.
Ce qui est bizarre, parce que c'est de la folk des années 70. Donc, et pour que les gens voient qui...
Okja, il y avait du John Denver.
Eh oui. Il y a Annie Song de John Denver dans la scène.
Okay.
Dans la course poursuite, à New York.
Ah oui, oui, ouais. Bah, oui.
Et donc,
chef d'œuvre Okja, hein, je vous conseille.
Ouais, j'adore. Hein.
J'ai revu il y a pas longtemps qu'il y a
Par contre,
super
Alien Covenant, non.
Non,
terrible.
Non. Et donc, le postulat part du principe, le postulat de la vidéo dit, c'est quand même hyper bizarre, pourquoi on utilise ce truc. Et en fait, il y a des raisons, assez politiques, en fait, et par rapport à l'histoire de John Denver et de son impact culturel, non pas que aux États-Unis, mais aussi en Asie. Et je pense que je peux aller un petit peu même à la conclusion de la vidéo, mais en gros, il y a deux films dans cette sélection qui sont vraiment à part, c'est Alien Covenant et Kingsman 2.
Oui.
Parce que en fait, c'est l'usage de la chanson qui est le moins justifié.
Ouais, c'est
comme dans le film, et même par les réalisateurs qui en parlent pas, que Bong Joon-ho, il en parle, il raconte sa relation avec Annie Song en interview. Logan Lucky, c'est au cœur thématique, en fait, du film. Free Fire, il y a aussi toute une démarche assez cynique par rapport à la scène de gunfight où Annie Song est utilisée.
Free Fire,
qui est très chouette
bien.
Aussi. Et
avant que tu t'arrives à la conclusion, il y avait des films que t'avais pas vu dans cette sélection.
Ouais, moi j'avais pas vu Free Fire. Okay. Je connaissais pas. Et franchement, c'est super chouette.
Ok.
Et donc la conclusion, c'est vraiment que donc Kingsman 2 et Alien Covenant, en fait, sont des films qui ont vraiment utilisé ça de manière bizarre. Dans Alien Covenant, c'est une transmission radio de show qui est hyper hasardeuse.
Mais tout est bizarre dans Alien Covenant.
Tout est bizarre, évidemment.
Tout est bizarre dans Alien Covenant.
Et dans Kingsman 2, c'est une scène de mort. Je vais pas spoiler, si on spoil Kingsman 2.
Moi, tu peux spoiler. Ça fait des années qu'il est sorti, tu peux y aller.
Oui, c'est la mort de Merlin où il chante Take Me Home Control avant de se faire sauter avec une mine.
Tu sais qu'il devait pas mourir, Merlin.
Ah ouais?
Non, il devait survivre à ça. Et en fait, le réal a décidé finalement de pas le faire revenir. Il devait revenir en rampant. Il avait plus que la moitié du corps. Et il devait intervenir, mais finalement, il trouvait que ça
trop cartoonesque.
Non, c'est pas. Le film est très cartoonesque, mais c'est surtout que ça dévalorisait l'acte de sacrifice du personnage. Et donc finalement, il l'a pas fait revenir. Mais moi j'adore les deux Kingsman et j'adore les trois Kingsman.
J'ai beaucoup plus de mal avec le préquel.
Ah moi j'ai
moi déjà le 2 j'ai un peu du mal personnellement.
Très bien. Ouais. Moi j'adore ce réalisateur.
Ouais, moi, le 1 je trouve ça super, le 2 j'ai un peu plus de mal.
Extrêmement bien réalisé, tous ces films sont très très bien réalisés.
J'aime
et
beaucoup
moi je trouve
mais
bah, c'est pareil quoi, ça va très bien.
T'attends le prochain film
grave, mais bien oui, bien,
et
gravement.
Le reboot de Kick-Ass. Il a annoncé le reboot de Kick-Ass.
Ah ouais, j'ai pas vu ça.
C'est un projet qui est en cours depuis des années en fait. En comics, Kick-Ass a continué et ça, c'est il y a notamment Kick-Ass est devenu une femme noire en fait. Ils ont changé le personnage principal et vraiment l'incarnation de Kick-Ass maintenant c'est une femme noire.
Okay.
Et il y a notamment plusieurs comics qui ont été écrits par Kevin Smith qui, je crois, moi je lis pas du tout de comics, mais je crois que tout le monde considère que c'est un peu un auteur de comics médiocre, si j'ai bien compris. Mais donc ouais, ils vont faire un reboot de Kick-Ass et ils disent ouais, on a besoin de rebooter cette franchise-là. Il est toujours très attaché à la franchise, même s'il l'a abandonné.
Non, mais il l'a regretté. Il a dit j'ai regretté de pas avoir fait le Kick-Ass 2 parce que justement, malheureusement, le film a pas. Enfin, ils ont essayé de singer ce qu'on avait fait dans le premier et c'était pas réussi.
Non, ouais,
c'est pour ça qu'il a fait la suite de Kingsman sur lequel il était à la base pas très chaud. Et finalement, surtout que au niveau scénaristique, c'était un défi de faire revenir les personnages.
Ouais.
Enfin, je veux pas spoiler, mais bon, je sais que le film est moins aimé, mais revoyez-le et revoyez et prenez un peu de recul et dites-vous mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans, quoi. Mais c'est fou.
Il y a une transition entre la bœuf et le.
Je sais pas ce que la scène d'ouverture, la course poursuite en taxi.
Ok.
Mais au niveau réel, mais c'est du délire. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils ont mis 15 jours à la faire, que c'est pratiquement entièrement tourné sur fond vert. C'est que de l'incruste et tout, mais ça se voit pas. C'est
incroyable.
Dément.
Incroyable.
Ce type est fou. Mais fou dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il sort des choses que personne, aucun autre réal n'a la folie de faire. Donc bon.
Et donc Kick-Ass 3, qui là il a dit ça y est, on est vraiment en train de bosser dessus, c'est notre prochain projet.
Ah ouais, c'est cool.
Et enfin ce sera soit le prochain, soit celui d'après, mais en tout cas c'est vraiment dans un futur proche. Et donc il dit si mes souvenirs sont bons, il a dit on a vraiment besoin de rebooter cette franchise là et de proposer quelque chose de neuf. Donc on ne sait pas s'ils vont suivre la voie des comics ou s'ils vont vraiment proposer quelque chose de complètement neuf. Voilà, c'est intéressant.
Complètement digressé. Hein.
Denver le petit dinosaure, c'est ça.
Denver le petit dinosaure. Donc du coup, ouais, donc il y a ces deux passages de John Denver qui sont très étranges, et en fait il y a des raisons financières et de communication et de marketing liées à ça. C'est que John Denver est considéré comme une star en Chine. Et après, même en Thaïlande et en Corée du Sud, il y avait même ce qu'on appelait la Denver Mania, vraiment terme très des années 80, quoi. parce qu'en fait, en gros, Denver a été un peu le symbole de la réconciliation entre les États-Unis et la Chine après la guerre froide. Et parce qu'en fait, les deux présidents d'alors, Deng Xiaoping et Jimmy Carter, se sont retrouvés lors d'un grand événement où il y avait des Harlem Globetrotters et il y avait un concert de John Denver. Et en fait, c'est devenu instantanément un classique, en fait, chez les Chinois et les Chinoises. Si bien que encore maintenant, c'est le morceau qui est le plus appris à la guitare en Chine par les jeunes et tout ça. Il y a vraiment un impact culturel.
Chez nous, c'est Wonderwall et chez eux,
c'est John Denver.
Et tu dis aussi que c'est vraiment de la musique inoffensive.
Ouais, parce qu'en fait, il y a ce truc de, c'est hyper apolitique, quoi. Enfin, ça parle de pas grand chose à part du rapport à la nature. Take Me Home Country Road, c'est vraiment juste de parler de la nature, de on est bien à la maison, tout ça. Et plus encore, en fait, ce morceau a été une vraie forme de soft power pour le rêve américain, en fait, parce que on constate que du coup, il y a eu beaucoup de personnes chinoises et coréennes qui ont émigré vers les États-Unis, en partie grâce au soft power américain, grâce au rêve américain, dont John Denver faisait un peu partie, en fait. Et
c'est génial.
Et donc il y avait ça.
L'histoire est folle.
L'histoire
est incroyable.
Et donc, pour en revenir au film, en fait, du coup, ça sert de moyen d'accroche aux spectateurs pour attirer le public chinois. Et preuve que c'est efficace, les films ont très bien marché en Chine. Ils ont tous fait 40 millions de dollars à l'époque, ce qui est vraiment pas négligeable pour leur recette de l'époque.
Est-ce que t'expliques un peu plus en détail dans ta vidéo, c'est que du coup, il y a des...
Et en plus, il y a des histoires de rachat aussi, de rachat de parts de l'entreprise. Donc, le Kingsman, c'est produit par TSG Entertainment, qui a été...
C'est pas la boîte de Ridley Scott? Non, c'est pas la boîte de Ridley Scott.
Alors, non.
TSG?
Ouais.
Non, je dis une bêtise. C'est pris,
C'est avec l'aigle, la boîte de Ridley Scott. Ok, d'accord.
Et donc, qui a été en partie racheté par Bonafilm Group, qui est un distributeur chinois, et Covenant, c'est avec la Fox. Et du coup, il y a aussi TSG qui coproduit le film. Et donc, en fait, on sent que c'est vraiment aussi... que ça a été poussé de mettre un morceau de John Denver de manière aussi... aussi un peu... aussi nulle, quoi. Enfin, aussi improbable, pour espérer avoir cette recette-là. Et en fait, c'est... cet usage improbable, en fait, c'est vraiment le fruit d'un soft power de plus de 40 ans, quoi. Et
on a eu de la chance qu'entre Jimmy Carter et Deng Xiaoping, ce soit pas un concert de Dolly Parton, hein. Je te dis pas. Hein.
C'est clair. Enfin voilà, donc
mais voilà, vidéo donc très intéressante, vraiment très bien rythmée.
On va aller voir ça.
Et très informative. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai trouvé ça très 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 réussi. Et toi, t'as d'autres actus, David? Attends, on a bien fait le tour de tes actus.
Ouais, très bien. Pour l'instant,
juste encore un Kickstarter qui dure encore deux jours.
Alors un Kiss Kiss Bang Bang.
Un Kiss Kiss Bang Bang.
Oula, attention.
Voilà, j'ai parlé de.
Oui, j'ai avec mes amis de Total Tracks. Donc Total Tracks, c'est un podcast sur la musique de film qu'on fait avec donc Rafik et Olivier. Et il y a quelques temps déjà, il y a même presque deux ans, un de nos auditeurs nous a envoyé son livre. Il s'appelle Yves Desrichard et c'est un grand, grand spécialiste de Jerry Goldsmith, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et il a écrit un livre sur Jerry Goldsmith, en fait, sur toutes ses musiques. Donc un gros pavé qui fait 800 000 signes. Donc c'est un bon gros bouquin. Ouais. Et donc où il évoque et il analyse et il étudie l'intégralité des scores de Jerry. Et donc nous on a trouvé ça super intéressant, on s'est dit bah on va en faire un livre. Et puis Rafik a dit ouais mais bon, en lisant on s'est rendu compte que Yves était quand même un auteur novice, donc il y avait beaucoup de choses à réécrire, à reprendre pour que le texte soit plaisant et équilibré. Donc Rafik a fait un énorme travail de réécriture avec l'auteur, ils ont travaillé ensemble très très longtemps, c'est pour ça que le crowdfunding sur ce livre, ça a mis du temps à démarrer. Et donc aujourd'hui, d'ailleurs, c'est un livre de Yves Desrichard avec la participation de Rafik Djoumi, parce que j'ai dit à Rafik, c'est pas possible. Vu le boulot que t'as abattu pour reprendre le livre, pour reprendre tout le texte, tu peux pas ne pas apparaître comme au moins co-auteur. Et voilà, on est très fiers d'avoir lancé ce bouquin qui a aujourd'hui atteint 500 préventes. Donc cool, on est super contents.
C'est génial, ouais.
Donc très facile, vous allez sur KissKissBankBank, vous tapez Jerry Goldsmith ou vous tapez dans un moteur de recherche KissKissGoldsmith. Ah bah on le voit.
Qu'est-ce qui a fait la cover parce qu'elle est magnifique.
Eh ben c'est moi.
Mais non, incroyable.
Si, ça fait partie des choses que j'aime bien faire.
Ok, c'est vraiment, on dirait que c'était prévu comme.
Pas du tout. Je suis très content qu'elle te plaise.
Non, elle est magnifique. Ouais.
Eh bien écoute, j'ai passé beaucoup de temps à faire cette cover que je vais un peu encore retravailler et bon, il se trouve que pendant plus de 8 ans, j'ai fait les nuits au Max Linder,
ouais,
où je faisais des nuits cinéma au Max, et à chaque fois, je créais une affiche. Donc, j'ai pris l'habitude de créer des affiches. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge.
Il n'y a pas de problème.
J'ai pris l'habitude de créer des affiches en composant différents éléments, et c'est quelque chose que j'adore faire. Et quand j'ai du temps, donc là pour Goldsmith, j'ai dit bah je vais me pencher. Donc j'ai utilisé pas mal d'outils pour retravailler de manière picturale les différents dessins. Voilà. Donc on est très très content que ce livre sorte. Je vous encourage vivement si vous vous intéressez à la musique de film. Jerry Goldsmith, c'est quand même un des piliers. Ouais. C'est le premier film, d'ailleurs, sur ce compositeur en français. Et voilà, c'est une histoire très, très intéressante. Le Kiss Kiss Bang Bang s'arrête dans 2 jours.
Ouais.
Donc, ne tardez pas.
Ne tardez pas.
Probablement que le livre sera vendu après.
Ouais.
Mais peut-être un peu plus cher qu'il ne l'est. Et puis surtout, il y aura des frais de port qui, là, sont compris dans
le livre. Et puis là, vous proposez aussi des t-shirts. J'ai vu vous proposer des petits goodies en plus.
Alors, il y a des petits goodies. Il y a du t-shirt Jerry Goldsmith. Ça, c'est toujours sympa. Et puis, on a un livre qui vient accompagner le livre de Yves Desrichard. On s'est dit qu'on allait faire une filmographie de Goldsmith complète visuelle. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'avec Olivier Desbrosses, on a pris tous les disques de Jerry Goldsmith publiés.
Ouais.
Et des fois, il y a plusieurs éditions, évidemment, par film. Et on en a fait un livre. Et donc, on passe d'année en année tous les films de Jerry Goldsmith qui ont été pratiquement tous, je crois même tous édités en disque, et donc c'est les couvertures des disques qui vont faire l'intérieur du bouquin. Donc ça va être un bouquin visuel de tous les films qu'a fait Jerry Goldsmith au travers de ces disques. Et ça c'est sympa parce que je crois que ça a jamais été fait. Et en plus il y a des couvertures de disques magnifiques, donc ça vaut vraiment le coup. Et ça accompagne très bien le livre sur Jerry. Donc voilà, un gros boulot, ça fait longtemps qu'on est dessus, mais là on arrive au bout.
Ah, c'est génial.
Et donc
il reste que 2 jours là, enfin même pas un jour et demi quoi, il reste
Exactement. Allez, foncez sur KissKissBankBank.
Vous pouvez acheter un magnifique livre et voir une vidéo YouTube extraordinaire, votre futur
voilà,
week-end est bien préparé.
Ouais. Et abonnez-vous du coup à la chaîne Werner.mp3 parce que je sais même pas si on a vraiment motion.
Ah bah oui, si on l'a noté. S'abonner.
Et en podcast.
Et cliquez sur la cloche pour être prévenu des nouvelles publications.
Évidemment.
Et bah oui, bien sûr, on connaît bien.
Et s'abonner à Total Tracks, évidemment.
Et puis il y a Total Tracks. Alors, ça c'est facile, hein. Vous tapez Total Tracks. Et vous allez trouver, on est sur Ocha, donc c'est publié sur plein de plateformes.
Et sur YouTube aussi.
Et sur YouTube, c'est republié aussi sur YouTube. À chaque fois, le pauvre Olivier se bat avec YouTube pour que les morceaux ne soient pas
coupés. Ouais.
Mais nous payons à la SACEM notre licence pour le podcast. Donc, on a droit de passer les musiques que l'on passe.
Il n'y a toujours pas pour la vidéo, hein, par ailleurs. Cet abonnement-là qui.
Oui, mais je crois qu'Olivier s'est bien arrangé parce qu'à chaque fois il envoie un message à YouTube qui débloque le truc.
Par ce système de licence, quoi.
Pas avec ce système de licence. Ah non, okay. Mais je pense que
il y a une phrase magique. Alors
je sais pas comment il se débrouille. Il arrive à débloquer les vidéos qui sont bloquées, donc ça c'est bien.
Ah bah moi je rêve d'avoir ces conseils-là. Moi je galère.
Appelle-le, contacte-le. mais YouTube étant pas vraiment l'endroit où on écoute du podcast généralement. Non, c'est quand même.
Même si YouTube essaye. Hein, YouTube
maintenant il y a un nouvel onglet podcast. J'ai vu maintenant ils essaient de développer ce truc.
Ils se positionnaient comme aussi une plateforme sur laquelle ils pourraient regrouper les podcasts.
Qui a pas l'air d'être non plus sur un peu il y a eu les shorts, là il y a le podcast.
Je
tiens à remercier Star Tour Rose Last Lunch qui s'est abonné avec Prime. Merci beaucoup.
Ah, merci beaucoup. Merci.
C'est un bonheur. C'est peut-être l'occasion de vous dire avant qu'on repasse sur le sujet de du format physique et du Blu-ray 4K.
Pas du tout ce que tu vas dire.
Que là il dit une dinguerie le mec. non, qu'il faut nous suivre sur les réseaux sociaux.
Ah oui oui oui, oui ça oui.
Sur Twitter, sur TikTok et Instagram, on prévoit d'être un peu plus d'avoir une présence un peu plus fréquente ces réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux là.
C'est quoi, c'est Caméflex?
C'est Caméflex Live. Et tout attaché sur Caméflex tous les réseaux sociaux.
D'accord.
Et sinon, vous nous retrouvez évidemment sur YouTube avec des vidéos postées toute la semaine.
Ah bah oui. Et en podcast
dès demain. La raison pour laquelle on va pas parler des films qui ont fait l'actualité cette semaine.
Ah oui, ça c'est marrant.
Moi je reviens de Serbie. Donc j'étais en Serbie pendant 3 jours pour le festival du film d'auteur de Belgrade. J'ai servi ma patrie là-bas. Non, c'est fou. On m'a invité. Donc Nicolas Radic, si je le prononce avec la bonne prononciation, m'a gentiment invité la semaine dernière à Belgrade pour faire une petite conférence sur la création et sur la critique web.
Je crois que de base,
web.
Il voulait inviter ton homonyme, le commentateur de rugby.
Le commentateur de rugby, mon homonyme Nicolas Delage. Non, ouais, voilà pour parler de création audiovisuelle, de création liée à la critique cinéma sur le web en France et faire un parallèle avec la Serbie. Donc ça sortait de nulle part et je suis très content d'être allé là-bas parce que j'avais pas prévu d'aller à Belgrade tout de suite et j'ai pu voir
c'est pas la destination auquel on pense comme ça,
c'est clair.
Et pourtant vraiment c'est une super ville, enfin ça vaut vraiment le coup d'être vu, même si j'ai pu le voir qu'en coup de vent, je suis resté que 3 jours et j'avais pas mal de choses à faire sur place.
Mais
j'ai pu voir 2 films quand même. Je voulais voir, j'ai failli aller voir Wish, le dernier Disney
doublé en serbe.
Sauf qu'il était doublé en serbe. Il faut savoir que en Serbie, ils ne doublent aucun film à part les films
les gros blockbusters.
C'est très rare qu'ils doublent les films, mais ouais, ils doublent les blockbusters et les films pour enfants. Et donc je me suis pas infligé Wish en serbe.
Tu aurais tort, il paraît que c'est la meilleure
version.
Parce
qu'à mon avis, c'est meilleur.
ça rend le film meilleur. Non, j'aurais rien compris, je pense, Wish en serbe, donc j'y suis pas allé.
Et hier soir, on devait aller voir Perfect Days.
Et donc, je suis rentré hier en fin d'après, mais on devait s'enchaîner Perfect Days de nouveau Wim Wenders, que j'ai très hâte de voir, perso.
Oui, qu'on ira regarder.
Voir ce week-end, mais donc, vous voulez raconter ce qui s'est passé.
C'est ton problème, c'est de ta faute, hein, donc c'est ton histoire, c'est à toi de raconter ça.
Bah non, mais t'es arrivé avec une valise, et sachez que vous ne pouvez plus aller au cinéma avec une valise, avec forcément
le plan Vigipirate
et tout ça. Donc on est allé boire des coups l'émission du lendemain.
Voilà. Ça pour boire, on a le droit d'aller
prendre les valises
du film, du cinéma. C'est pas la
non, mais voilà, en descendant de l'avion là, en sortant de Charles de Gaulle et en arrivant au cinéma de Châtelet, et on se fait refouler l'accès, c'est chiant.
Mais bon,
le mec du cinéma nous a dit vous inquiétez pas, ça pue dans la salle.
Ce qui est drôle pour un film qui parle de nettoyage de toilettes.
Voilà, c'est ça.
En odorama.
En odorama, exactement.
On aurait pu l'avoir en odorama.
Non, en tout cas, ils ont été très cool.
La séance était complète, machin. Enfin bref, c'était une galère totale.
Bref.
Et
donc on a préféré boire que de vous proposer les actus ciné.
Moi, j'ai vu Dumb Money. Toi, t'as vu la moitié de Dumb Money.
Ouais, j'ai vu une moitié de Dumb Money par mon cousin américain qui m'a envoyé une cassette VHS.
Ah ouais. Le fameux cousin,
oui, bien sûr.
Non mais moi aussi, c'est le même qui m'a fourni le film.
D'accord.
Mais donc ouais, on n'en parlera pas sur cette émission. On n'a pas eu le temps de voir les films malheureusement, mais on a remplacé ça par une petite discussion qui peut être vraiment très sympa et très instructive, qui va porter sur le format physique, le Blu-ray 4K, le DVD et aussi on peut inclure le vinyle,
CD,
et du CD de cette consommation entre guillemets.
Et on en parlera puisque toi t'as fait une vidéo aussi récemment justement où tu parles un petit peu du retour du vinyle et où t'es allé voir le plus vieux disquaire de France
encore en activité
qui par chance c'est pas loin de chez toi,
qui a 5 minutes à pied de chez moi.
On peut peut-être commencer cette discussion en disant pourquoi on aime le format physique, et que ce soit en musique ou en DVD, il y a pas mal, enfin en film, en vidéo, il y a pas mal de choses qui se rapprochent et c'est un peu des évidences, hein. On peut notamment parler, toi tu parlais de la présence de bonus.
Ouais, le bonus, les making-of, c'est des choses que les plateformes ne font pas, à part Disney qui essaye un petit peu de de sortir des bouts de making-of, mais la plupart
Apple TV aussi, j'ai vu sur ta vidéo, j'ai vu sur ta vidéo de Avatar que effectivement quand t'achètes le film en digital, t'as tous les
mêmes contenus que sur le
Mais bon, il y a déjà l'objet à avoir en main, c'est quand même quelque chose.
Non, mais ça n'a rien à voir. En fait, le problème, c'est que le format physique, c'est aussi une question pas dire d'éducation, mais nous, on a, la plupart d'entre nous, on a été élevés avec des livres, des vrais livres, avec du papier. On a eu des disques qu'on tenait en main. Et puis, il y avait toute la démarche d'aller chez le revendeur, donc le disquaire ou la FNAC. Et donc, ça faisait partie d'un plaisir, quelque part, que d'aller chercher l'objet désiré, la musique qu'on voulait, le film qu'on voulait. Donc, tout ça fait partie d'une éducation, d'une habitude. Et je sais pas si ça perdurera, mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, je me sens pas propriétaire de quoi que ce soit quand c'est du pur démat. Ça veut pas dire que j'utilise pas le dématérialisé ou le streaming.
Non, bien sûr.
Mais si je veux posséder un film, il me faut la version physique.
Oui, et puis il y a ce truc aussi de en dématérialisé, bah tu peux très bien le perdre dans 6 mois et ne plus pouvoir le voir.
Si tu l'achètes, achètes la VOD. Normalement, c'est censé durer
jusqu'à ce que les serveurs de la marque.
Et puis quand t'achètes un physique, donc t'as le support déjà, et puis t'as la proposition telle qu'elle est. Là où maintenant tu peux avoir des retouches, que ce soit avec des images ou alors des scènes coupées, enfin des rajouts ou des.
Ça c'est le cas.
Parce que si tu veux telle version du film et telle autre version, bah t'achètes deux versions du film et t'achètes, mais t'as les deux, tu possèdes les deux.
Moi qui ai toujours les laserdiscs de Star Wars de l'époque CBS Fox, j'ai les versions non modifiées.
Avant les Special Editions.
Exactement.
Moi je sais que sur les laserdiscs, je me souviens très bien sur certains films quand j'étais gamin, à quel moment fallait le retourner. Et c'est tout con, mais ça fait aussi des moments.
Et sur le truc de on possède pas les œuvres, on peut sur le fait qu'on peut perdre les œuvres, on se souvient par exemple d'Ultraviolette qui est mort il y a quelques années, qui était du coup la boîte qui faisait que tu possédais certains films quand tu achetais le DVD, ben ils t'offraient la copie digitale que tu possédais. Et en fait, ils ont fermé, donc tu ne possèdes plus rien. En fait, si tu jetais ton DVD et que tu te disais je m'en fous, je l'ai en démat, bah non. Aujourd'hui, la boîte a fermé ses portes.
Et puis, il faut penser aussi au changement de technologie aussi, parce qu'on va forcément avoir des mises à jour, des nouveaux codecs, des nouveaux formats qui vont devenir phares, qui vont rendre sans doute des formats de lecture, peut-être que le MP4 a caduque d'ici 10 ans, on sait pas. Enfin, les tendances de codecs et d'encodage de films peuvent tellement changer que finalement, on sait jamais à quel point on pourra. Au fur et à mesure du temps, réutiliser.
C'est un problème similaire avec le disque, parce qu'au final, aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordinateurs qui n'ont même pas de lecteur CD, et donc on pourrait presque rapprocher ça à l'histoire de la disquette, quoi.
C'est clair.
Donc c'est aussi un problème qui se pose avec le format physique, mais il y a plein d'autres raisons. Hein. Là, tu parlais d'aller acheter son disque.
Il y a quand même une démarche il y a toute une démarche autour du format physique. Aujourd'hui, bon, c'est vrai que la plupart des trucs, je les commande sur Amazon ou autres sites de vente. Donc, je vais beaucoup moins dans les rayons.
Tu fais pas les nozes, les trucs comme ça où tu vas fouiller.
J'adore les brocantes.
Il se trouve qu'après de nombreuses années, et maintenant le format HD, le Blu-ray a 15 et 20 ans. Et donc maintenant, ça fait quand même pas mal d'années que j'ai des milliers de Blu-ray et que j'ai à peu près tout ce qui m'intéresse dans plusieurs versions que je rachète à nouveau en ultra HD maintenant pour la plupart, donc ça devient moins intéressant d'aller fouiller, d'autant que j'ai vraiment laissé tomber le format DVD. Ça devient compliqué, j'ai un vidéoprojecteur, regarder un DVD sur un vidéoprojecteur ça pique un peu les yeux, donc
voilà, dans tous les cas ça pique les yeux, le DVD
c'est pas évident. Ça veut pas dire, j'ai toujours des lecteurs VHS, j'ai toujours des vieux trucs qui me permettent de regarder d'anciens formats. J'ai même du VHD, je sais pas si vous connaissez. C'est le format japonais du vidéodisque qui était un truc assez dingo, puisque c'est les laser disques sont dans des espèces de trucs en plastique qu'on insère dans le lecteur et qu'on rééjecte. C'est pour protéger le laser. Donc le VHD, c'était quelque chose d'assez fou. J'adore tous ces formats un peu exotiques, mais non, c'est vrai que
comme la cassette HD.
la cassette HD qui a vraiment existé où en fait il y avait une qualité qui était comparable à celle d'un Blu-ray sur cassette. C'est fou, ouais.
C'est fou.
Le SVHS.
Le SVHS
aussi, le SVHS, le Super VHS qui avait vraiment une qualité d'image quasi, on était proche du Betamax quoi. Mm. Donc quasi broadcast en PAL bien sûr, c'était pas encore de la HD. Mais non, il y a eu des formats très très marrants. Mais aujourd'hui, ça y est, on va dire qu'avec l'Ultra HD,
ouais,
on arrive dans un format quasi définitif.
Est-ce qui est relou, c'est qu'ils ont quand ils ont signé la charte du Blu-ray UHD, ils ont omis le côté 3D.
Ah ouais, mais c'était parce que ça posait des tas de problèmes techniques, la 3D, des problèmes de débit, etc. Donc ils sentaient déjà le vent tourner sur la 3D, mais ça se trouve ça reviendra peut-être. Hein. C'est moi j'en parlais récemment dans une vidéo que j'ai fait avec Pépé Garcia sur la 3D où je pense que c'est un truc qui existe depuis les années 60. C'est récurrent. Mm-hmm. Ça va, ça vient, ça va, ça va. Alors là on a vécu 10 ans entre Avatar et 2020, on va dire ouais, avant Covid. Mm. On a vécu 10 ans de
c'était un peu l'overdose.
D'overdose de 3D avec le matériel qui allait avec. Je pense que ça fait une pause là qui dit que l'industrie reviendra pas dessus dans 10 ans ou 15 ans
en
en refilant une nouvelle couche. Donc je désespère pas sur les contenus 3D, je désespère pas.
Ouais. Et donc oui, on a un format qui est assez parfait avec le 4K,
ah ouais,
4K mais malgré du coup cette espèce de limitation de on peut pas faire du 48 images secondes. Bah, obligé de faire du 60,
oui,
ou du 24.
Maintenant, qui a été capable de vraiment maîtriser la HFR à part Douglas Trumbull, parce qu'il faut quand même se souvenir que le HFR, ça a pas été inventé, enfin ça existe depuis longtemps, mais Douglas Trumbull, qui est un spécialiste d'effets spéciaux, il a inventé un truc au début des années 80 qui s'appelait le Shoscan, qui était en 68 images secondes. Pourquoi 68 images secondes? Parce que c'est la vitesse de la persistance rétinienne. En fait, notre œil arrive à emmagasiner, on va dire, 68 images par seconde. Donc on est bien au-delà du 24 FPS, qui est en fait... Pourquoi c'est du 24 FPS? Parce que c'est à ce moment-là que l'œil se fait avoir et que ça commence à devenir fluide. En dessous, ça marche pas.
Ouais, c'est des questions économiques, en fait.
Exactement.
À la base
il fallait, comme la pellicule coûtait cher, il fallait trouver le moment où l'œil se faisait gruger et n'avait plus la sensation que le mouvement était découpé. Donc c'est 24 FPS. Après, la vidéo aux États-Unis, c'était 30 FPS et en France 25 parce que pour des raisons de fréquence, du système électrique. En Europe, en France, on est à 50 Hertz. Aux États-Unis, au Japon, ils sont à 60 Hertz. Donc, il fallait trouver une fréquence qui correspondait électroniquement au fonctionnement, ce fonctionnement électrique. Donc, voilà pourquoi on est en 30 et en 25 en Europe. En 30 aux États-Unis, en 25 en Europe. Et tout ça, Trumbull, lui, il s'est dit, mais en fait, Trumbull, il avait envie de faire des attractions à la base. C'était pas vraiment des films. Et donc, il disait, mais on va gruger les gens. On n'a pas besoin de 3D. On va gruger les gens avec la vitesse de défilement. Et il a créé une démo qui s'appelle New Magic, qu'on a eu la chance d'avoir en France en 88, puisque c'était au moment du bicentenaire de la Révolution.
Okay.
Et New Magic, c'est un film incroyable, et entièrement créé par Trumbull, en 68 images par seconde, avec un son aussi dingue, parce que, en fait, comme la bande défile très vite, et ben les informations sonores qui sont codées sur le bord de la pellicule étaient excellentes. C'était du digital en plus, je crois, elle est déjà à l'époque. Et donc New Magic, c'est un film remarquable qui commence par des images toutes pourries d'un lancement de feu d'artifice, et puis le film casse. Donc on se retrouve dans le noir. Et comme beaucoup de salles aux États-Unis, mais aussi en France, il y a souvent des scènes qui sont derrière l'écran. L'écran est posé devant une scène. Enfin, on voit s'allumer la scène derrière l'écran. On voit le type qui vient et qui vient regarder derrière l'écran s'il y a du monde dans la salle. Et en fait, t'as l'écran qui se déforme. Tu vois la gueule du mec. En fait, le film continue. En fait, c'est New Magic.
C'est génial.
Et tu te fais complètement avoir parce que le film est d'une netteté.
Mm.
Et d'une fluidité. Et donc après, évidemment, Trumbull est un type génial. On en a parlé sur les effets spéciaux de Blade Runner. Il avait commencé à travailler sur 2001 avec Kubrick. Son film sur le comment ça s'appelle, me revenir. Bref, il a fait les effets spéciaux de, aussi de Star Trek The Motion Picture qui sont assez fous, de Rencontre du Troisième Type. Enfin bref, c'est un type génial. Et cette idée de Shoscan, bah, en fait, c'est ça, c'est la HFR. Et ça, et, mais il avait expliqué à quel point c'était compliqué à maîtriser. Parce que ce qui est difficile, c'est comme ça tourne beaucoup plus vite, c'est d'éclairer correctement des scènes où il faut une sensibilité. Alors, c'est sûr qu'avec les caméras plus modernes, maintenant, c'est moins complexe. Ouais, ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment très complexe de faire une photo qui soit pas dégueulasse, on va dire, et qui fasse pas vidéo. Parce que souvent, ce qu'on reproche à la SFR, c'est un côté
télé-novelas,
quoi, un côté vidéo. Mais tout ça, c'est un problème de photo. C'est un problème de réglage à la photo. Il avait réussi à dépasser ce problème. Et le résultat devait servir un film qu'il a réalisé à l'époque, qui est le dernier film qu'il a réalisé, qui s'appelle Brainstorm, qui est un film avec Christopher Walken et Natalie Wood, qui est morte malheureusement avant la fin du tournage. Et en fait, ça a cramé le film, et qui est un film incroyable, et qui devait tourner en Shoscan, un mélange de Shoscan et de cinéma traditionnel. Et en fait, comme c'est une espèce d'appareil qui permet d'enregistrer, de s'immerger dans le cerveau d'un autre... Mm. À chaque fois qu'on chaussait, que le personnage chaussait l'appareil et qu'on voyait au travers des yeux du personnage qui est en train de repasser une bande, ça devait être passé en Shoscan. Donc il y avait une espèce de, c'était un format quasiment carré pour la vie de tous les jours et ça passait en scope Shoscan. Et en fait, il a pas pu tourner en Shoscan. Par contre, ces changements de format existent dans le film. Il y a un Blu-ray qui est très bien pour ça, un Blu-ray américain qui est totalement introuvable maintenant, mais il existe. Et le film est absolument génial. Et c'est dommage parce que ce procédé qui coûtait cher, faut l'avouer, est tombé en désuétude. Et quand d'autres ont essayé de le récupérer, comme Peter Jackson pour Le Hobbit ou Cameron sur Avatar 2, j'ai pas l'impression que ça arrive à prendre. Ou Ang Lee qui a tourné pas mal en HFR.
Ce premier, c'est
Billy Lynn, et il a fait Gemini Man. Et quand on voit Gemini Man, il y a des scènes qui fonctionnent bien, puis il y a des scènes qui fonctionnent pas.
J'ai acheté le Blu-ray 4K juste pour ça, pour avoir cette expérience là.
Et ça marche.
Et je l'ai pas vu encore. Du coup,
je confirme que c'est bien. J'ai vu
Billy Lynn une fois au ciné sans le HFR.
Mais au ciné, c'était en 120, je crois, carrément.
Billy Lynn?
Ouais.
Ah oui?
À la base, normalement, Billy Lynn, c'est du 120 images par seconde. C'est complètement fou. Okay. Et alors, je sais pas si en France, c'est passé à cette fréquence-là.
Non, parce que personne ne l'a passé. Même le film est à peine passé en France. Par contre, j'ai acheté le Blu-ray 4K, je me le suis revu. En fait, ce qui est dommage, c'est que, bon, j'ai pas vu Gemini Man, mais ça a vraiment pas l'air ouf. C'est que c'est pas des excellents films, quoi. Même Billy Lynn, c'est pas,
c'est bien le problème.
Le film, c'est une espèce de démo technique, quoi. C'est cool, j'ai pu tester ma télé et mon lecteur de Blu-ray 4K, quoi. Mais le film a pas beaucoup d'intérêt à part ça. Mais Gemini Man, j'ai quand même envie de le voir, mais ça a l'air vraiment assez mauvais. Et c'est fou de se dire
que... C'est pas mauvais. C'est juste que Gemini Man, c'est un petit problème technique.
Ouais, en dessous, il faut rallumer l'écran.
Gemini Man, ce qui est dommage, c'est que le côté HFR est pas vraiment mis en valeur. Moi, j'ai trouvé que la photo était assez décevante et tout. Parce que c'est encore pareil, c'est toujours pareil. C'est pour réussir un film en HFR, c'est le travail de l'image qui est le plus important. Et ça, Trumbull l'avait bien compris. Et je regrette qu'on puisse pas retrouver aujourd'hui des films comme New Magic. J'adorerais revoir ou revoir reprocher. Et il y en a eu d'autres. Parce que, alors, il y a eu un film qui s'appelait A Call from Space. Je crois que c'est Richard Fleischer. Qui était pareil, un court-métrage d'une quinzaine de minutes qui passait en attraction dans des parcs comme le Futuroscope où il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, du parc des Schtroumpfs quand il a ouvert au début du côté de Metz.
Ouais. Le parc des
à l'ouverture, il y avait.
Le parc, ça, c'est chez moi, ça.
Il y avait le parc Spirou.
Non, c'est pas le parc Spirou.
Il y avait une Charles Shoscan qui a passé New Magic et qui passait Call from Space, qui est pareil, un film qu'on peut pas revoir aujourd'hui.
Okay.
C'est dommage parce que c'est vraiment tout un patrimoine cinématographique. Mmh. Pareil, il y avait eu un film sur le bicentenaire qui avait été tourné en Shoscan.
OK.
Qui a disparu, c'était Perrier qui l'avait produit. Bon, c'était pas un très bon film parce que justement, il maîtrisait pas très bien la techno, ce qui fait que les reproductions de la cour de Louis XVI, tout le monde transpirait à grosses gouttes, ça se voyait parce que ils avaient dû mettre la photo à fond pour qu'il y ait une image, quoi. Mmh. Et on sentait que c'était pas la maîtrise. Mais voilà, ça c'est dommage quand il y a du patrimoine cinématographique comme c'est ça clair. Et une technologie qui n'a pas perduré, c'est dommage qu'elle disparaisse et qu'on puisse pas revoir ces films.
C'est clair. J'ai une petite question par rapport, tu parlais de Gemini Man. qui était en 120 fps, mais vu que tu disais que la personne
c'est Jamie Lynn, Billy Lynn, je crois, mais pas Jamie.
Oui, Billy Lynn, mais tu parlais de 120 images par seconde, mais en fait, si la persistance rétinienne est de 68, alors qu'est-ce que ça apporte
Sûrement une profondeur supplémentaire. En fait, je pense que
ouais, il y a quand même une différence. Tu la vois la différence. Okay.
J'ai pas vu, donc c'est pour ça que je pose la question.
Moi, j'ai pas vu non plus.
Quand ça passe en 120. C'est juste parce que c'est un multiple de 60. Enfin non, mais ce que je veux dire, oui, alors c'était peut-être comme c'était il y avait de la 3D. Bah,
Jimmy Neiman, c'est le cas, hein. Jimmy Neiman, c'est 120 parce que t'as 60 images pareil en fait.
C'est ça. Alors c'est de la 3D. Il y a pas de Blu-ray 3D puisque c'est de la 4K, mais quand c'est passé au cinéma aux États-Unis a priori puisque c'était là où le truc a été vraiment testé. Oui, c'est possible que tu avais vraiment 60 images par œil.
Je crois que Billy Lynn c'était 60 et que Jamie Neiman c'était 120 parce que t'as.
Faudrait demander à Rafik Djoumi qui lui est un spécialiste de HFR. HFR et de ce genre de gadget. Il adore ça, mais je le comprends.
Mais
moi
donc,
aussi, ça me plaît.
Au-delà des questions de HFR qui bon sont pas réplicables vraiment, enfin si comme on l'a vu, mais qui sont pas tout le temps répliquées dans le format physique. Le format physique posséder l'œuvre, on a un débit aussi qui est bien meilleur sur du Blu-ray ou sur du Blu-ray 4K que sur ce qu'on trouve en ligne sur Netflix. C'est même pas comparable.
J'ai fait la comparaison sur
Avatar.
Avatar,
ouais.
C'est un x3, x4.
Ouais. Et je m'aventurerai pas là, mais je pense même qu'il y a certains DVD qui ont un meilleur débit que ce que Netflix nous propose, quoi.
Je sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le format physique, c'est impossible de rattraper ça en streaming, même avec une fibre de haute qualité. T'as un débit qui est incroyable sur le format physique.
Il y a la question écologique aussi, avec les serveurs qui fournissent les films. C'est très difficile à calculer d'après ce que j'ai compris.
Bah oui, forcément.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la méthode.
Ah bah ils en parlaient ce matin. Bah on va peut-être parler de là où j'étais ce matin. Ouais. Parce que justement, ils parlaient de ce côté écologique.
Parce que c'était la conférence UHD Partner France.
Voilà, c'est ça. Chaque année, UHD Partner, qui est un peu une assoce qui regroupe tous les, qui rapproche tous les fabricants, éditeurs de format physique et principalement en UHD, organise une conférence annuelle. Et donc, c'est la première fois que j'y allais à cette conférence ce matin, qui était en partenariat aussi avec Son Vidéo, avec la Fnac, avec les années laser. Et donc, Son Vidéo, la Fnac, les années laser ont un prix, justement, remettre un prix, du meilleur film en UHD, etc.
Et là, cette année, c'était qui, du coup?
Ah ben, tu veux qu'on le dise tout de suite?
Non, on peut y venir.
On va y venir après. Et donc, ils ont toute une présentation du marché, de plein de choses. Et c'était super intéressant parce que, alors déjà, il y a des chiffres intéressants cette année sur le marché qui commencent à basculer. Moi, ce qu'on m'a toujours dit... alors voilà, on voit des images en même temps que j'ai prises ce matin de photos sur le... des photos que j'ai prises au moment de la conférence. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette année, pour la première fois, le marché bascule. On m'a toujours dit, quand vous faites du Blu-ray, mais en fait, le Blu-ray, c'est pas intéressant commercialement. On continue à vendre plus de DVD que de Blu-ray. Bon, bah, ça y est, cette année...
Ah, ça y est, c'est
l'UHD. L'UHD plus le Blu-ray, enfin, l'HD en général, l'Ultra HD plus le Blu-ray, dépasse les ventes du DVD. Voilà, on voit l'image. En 2022, c'était encore le DVD qui prédominait. En 2023, c'est le Blu-ray et l'Ultra HD. Alors, il y a deux explications à ça. Déjà, il faut quand même dire que si on voit la slide suivante, que le marché s'est contracté. Il y a 15% entre 15 et 20%. Voilà, sur cette slide
qu'on voit à gauche, c'est ça, non?
Il y a entre 15 et 20% de perte de vente entre l'année dernière et cette année, ce qui est beaucoup,
ouais.
Beaucoup, beaucoup.
Alors qu'on a eu des grosses sorties comme Avatar 2,
notamment. Ce qu'il disait, c'est que l'année n'était pas finie. Que il y a Oppenheimer, il y a Barbie, il y a plein de gros films qui arrivent et qui ne sont pas comptabilisés. Donc, on verra au final comment ça se passe. Il faut savoir qu'Oppenheimer, c'est le film qui a vendu l'intégralité de ses éditions collector à travers le monde. C'est-à-dire que là, c'est sold
ouf.
Out.
Ouais, c'est okay.
Et qu'il ne reste quasiment plus de première édition standard, on va dire, d'Oppenheimer. Moi, je me demande bien pourquoi. Moi, je veux
mais
pas...
Mais tant mieux.
Personnellement, ça m'a pas... Moi non plus.
On n'a pas encensé Oppenheimer
maintenant,
non plus.
Merci à Nolan de faire des films que les gens achètent en
Blu-ray. Il y a Noël aussi qui arrive.
Et il y a Noël, donc ça va être un film qui va être offert. Et donc voilà. Donc aux États-Unis comme en France, précipitez-vous si vous voulez vous acheter Oppenheimer, précipitez-vous sur la version Steelbook, enfin la version un peu collector, parce que il y en a quasiment plus.
Ok.
Donc, je crois qu'il en reste un peu chez sonvideo.com, mais pas beaucoup, donc dépêchez-vous. Et c'est fou. Enfin, je veux dire, c'est des ventes qui sont conséquentes. Alors, j'ai des chiffres, par exemple, sur les ventes d'Avatar. Avatar, tout format confondu, c'est à peu près, en physique, c'est 250 000 ventes en France. C'est quand même pas mal du tout. Ouais. Mmh. Et donc, quasiment 50 000...
50% de DVD, non ?
Ouais, probablement.
C'est ouf. Donc, il y a des gens qui ont acheté Avatar 2 en DVD.
Donc, oui, mais parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui achètent du DVD, parce que pour eux, ça fait pas, ils voient pas la différence. Mais il y a quand même 50 000 exemplaires qui ont été vendus de l'Ultra HD. Entre la version standard et la version Steelbook. Mmh. À peu près la même quantité. 25 000 exemplaires du Steelbook et à peu près autant en version standard qui va probablement continuer à se vendre. Donc ça, c'est des chiffres super intéressants. Mais attention, Avatar, c'est quand même l'exception par rapport à la règle, parce que quand j'ai vu les autres niveaux de vente, on est plutôt, sur du John Wick ou sur du gros film, on est plutôt entre 10 000, 15 000, 20 000.
Ouais. Donc on est très très loin de ces chiffres-là.
Avatar, c'est le carton absolu. Mmh. Et là où ça fait mal au cœur, c'est de se dire que, c'est pareil, c'est les chiffres que j'ai appris ce matin, la version 3D du Blu-ray d'Avatar, donc le dernier Blu-ray 3D édité, hein, parce qu'avant celui-là... Il s'était passé déjà quelques mois, voire plus d'un an. Il n'y avait plus de sortie du tout de Blu-ray 3D. Mmh. Évidemment, Cameron a insisté lourdement pour que le Blu-ray 3D soit édité. Et il a bien raison.
C'est un format qui se perd complètement.
Ah bah, c'est un format qui disparaît, clairement. Eh bien, ils ont tiré en France 10 000 exemplaires du Blu-ray 3D et ils sont tous vendus. Ouais. Et là, tu te dis... et les mecs, qu'est-ce que vous attendez pour en faire 10 000 de plus ? Parce que clairement, il y a un marché.
Bah ouais.
Et c'est là que tu te dis... Alors, c'est bien le problème des choses qu'on a apprises ce matin dans cette conférence, c'est que la plupart des éditeurs, et donc du marketing qui est derrière, ont des idées assez précises sur les quantités de choses qu'ils veulent faire, et ils font leur quantité, ils font leur version... la version Steelbook, c'est un tirage, on va dire, de 3 000, de 5 000, de 10 000. Il n'y a pas de retirage derrière. Waterworld sorti chez Universal, je sais pas combien ils en ont tiré, je crois que ça doit être 3-4 000, épuisé avant même qu'il arrive dans les bacs, la version Steelbook. En Ultra HD, hein, je parle. Hein.
Et ils veulent pas en retirer.
C'est fini. Et là, tu te dis, mais ok, les ventes baissent, mais les mecs, vous perdez des clients.
Ouais, en fait, ils veulent pas prendre le risque d'être perdants, en fait.
Exactement.
Il y a un abandon, il y a un espèce d'aveu d'échec de, on sait maintenant que notre chiffre d'affaires doit plus être là, et donc on fait plus aucun effort.
C'est vrai que quand tu regardes le chiffre global de ce que génère l'Ultra HD en termes de chiffre d'affaires France sur une année, vous avez une idée? C'est 19 millions d'euros. Ce qui est pas grand chose.
Non, c'est pas.
C'est pas terrible.
Comparé aux chiffres de ce qu'a dû produire la VHS dans les années 90.
Et même le DVD.
Le DVD dans les années 2000.
Le DVD, c'était des centaines de milliers de ventes. Donc, aujourd'hui, un marché qui représente 20 millions d'euros, pour les gros, c'est pas grand chose. Et quand Disney sort 10 000 exemplaires du Avatar 2 en 3D, c'est vraiment la limite basse de ce qui les intéresse pour faire l'édition. Mais là où le calcul est mauvais, c'est que tout ça, ça rentre dans des tableaux. Moi, je connais bien le problème parce que j'ai été éditeur de livres, donc c'est pas des DVD. Mais on a des tableaux Excel qui s'appellent les comptes prévisionnels d'exploitation, les CPE. Et donc, ces comptes prévisionnels d'exploitation, on rentre des quantités, on a les coûts de fabrication, on a les coûts des droits, etc. Tout se met en place. Et donc, on dit, OK, donc, on est rentable si on en fait 5000. Donc, OK, le marché, on l'estime à combien? On appelle le distributeur. Pour nous, c'était dans les dernières années, c'était quand je bossais encore là-bas, c'était Hachette. Combien vous estimez que machin, il peut faire? 10 000? OK. Voilà, 10 000. Merci, au revoir. Donc, on réfléchit pas. Et ça, c'est la même logique chez les éditeurs de vidéos. On réfléchit pas à ce que potentiellement le film pourrait faire. On réfléchit, on tire en fonction de ce que
ça va
la
donner.
Force de vente a dit que ça ferait. Donc, si la force de vente, elle a dit... Mais même moi j'ai halluciné, même un Top Gun Maverick, c'est même pas 50 000 ex.
Ah oui.
J'ai les chiffres, je peux vous les retrouver. Hein.
Vendu ou tiré du coup?
Allez-y, discutez sans moi, je vais vous retrouver les chiffres.
Mais bah, en tout cas, ce que tu disais, moi ça me choque pas tant que ça parce que j'ai l'impression qu'il y a la même logique aussi maintenant dans la musique. Ouais. Tu vois.
En justement, fait, genre,
ils ont complètement vrillé le marché quoi. Ils s'intéressent, enfin, c'est.
T'as eu cette même numérisation du marché et surtout, en fait, avec. Mais là aussi, c'est une autre variante, c'est que les indépendants ont pu se développer par le streaming et donc maintenant. Il y a quand même eu cette petite mode de faire des éditions physiques de vinyle, de CD. Mais par exemple, pour des rappeurs qui ont quand même une communauté assez solide, enfin, en tout cas des auditeurs assez présents, 200 exemplaires de vinyle.
Quoi? Ouais, je donne des chiffres.
C'est non existant, quoi, à ce stade.
Et c'est ridicule, quoi. Et ouais. donc, en plus, ça crée une bulle spéculative extraordinaire. Et je suppose que pour les Blu-ray, ça va aussi arriver. Et c'est déjà le cas.
Bah, t'as les mecs qui dès les annonces, dès les préventes.
On pense au chat qui fume, l'éditeur de le chat qui fume,
leur achète par 10.
Ouais, c'est n'importe quoi.
Et après, les revendent au double sur eBay. Et ça, c'est péniblissime.
Bien sûr.
Ouais. Je vous donne des chiffres. Dune. Tenez, on va faire un petit quiz.
Oh.
Dune. Le steelbook, combien d'exemplaires vendus?
Vendus.
20 000.
Bien, 21 000.
Ouf.
Ok, excellent.
Ouais, il est chaud.
J'aime bien.
Ah, il est chaud,
Ok,
bien ce jeu.
Top Gun Maverick, j'ai pas l'impression que ce soit la version steelbook, j'ai l'impression que c'est la version normale. Top Gun Maverick.
50 000?
15 000. Non, je me suis trompé.
15 000.
15 000.
30 000.
30 000.
Allez, 60 000.
Oh là là! C'est toi qui es le plus proche. 21 000.
Pareil,
c'est
d'accord.
Pas énorme.
Extrêmement
John
bon,
Wick 4, alors qu'il en est qu'un peu au début de son exploitation, parce que les chiffres, il doit être récent.
10 000.
Ouais, c'est 10
000. 9 000 exemplaires.
Mais il est bouillant, c'est fou ça.
C'est
Gardien de la Galaxie 3.
30 000.
Je dirais 22 000.
Ah non, il est sorti.
Il est sorti il y a pas longtemps.
Ah oui. À 15 000, ouais.
25-30.
12 000. Ah ouais.
Pourtant, il est bien, ça. C'est pour le coup, c'est vraiment.
Et donc,
un bon
Avatar, marrer, la voix de l'eau, le steelbook, 25 000 ex. Mm. Et la voix de l'eau, l'édition standard, 27 000 exemplaires. Donc, c'est vachement au-dessus.
Ah ouais,
des trucs, quoi. C'est assez impressionnant. Donc, voilà. C'est étonnant parce que, quelque part, tu dois avoir les commerciaux qui ont dit oui mais attention Avatar gros carton grosse distribution donc évidemment quand t'es dans les Auchan, les Leclerc, les Carrefour etc en tête de gondole tu fais des ventes que ce soit le format ultra HD comme le format HD etc il est clair que tous ces produits ne se retrouvent pas en tête de gondole il y en a finalement assez peu puis c'est compliqué mais voilà je pense qu'il y a vraiment un problème de logique chez les éditeurs qui regardent plus ce que leur proposent les forces de vente que d'imaginer ce que le marché pourrait encaisser et ça devient problématique parce que c'est le serpent qui se mord la queue. Moins on en produit, moins les gens en achèteront. Plus les produits sont rares.
Ouais. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a plus aucune volonté d'essayer vraiment de refaire prendre cette habitude de consommation en fait. Parce que l'habitude est vraiment en train de se perdre. On a vu, il y avait une pub récemment pour Leclerc, je crois, où il se moquait des personnes qui collectionnaient beaucoup de DVD. T'as suivi
ça? Non, je l'ai pas vu celle-là.
Ok, bah il y avait ça de on va choisir un film et le mec a des armoires de DVD derrière, etc. Et c'est pour se moquer des personnes qui sont pas dans l'ère présente et dans la
technologie. Ce qui est complètement, c'est une connerie. Tu peux très bien faire les deux.
Ce qui est des DVD, ok, dans le cas du DVD, ok, mais
et encore, hein, parce que il y a énormément de DVD qui ont pas été réédités.
Exactement. Bien sûr.
Et donc il y a des films qu'on ne trouve qu'à ce format-là.
Bah, Abyss, par exemple, là, qui va avoir une ressortie enfin. Mais
alors, j'ai un peu râlé en disant que j'en avais ras-le-bol d'attendre Abyss depuis 36 ans.
Ouais.
Le film a 36 ans.
Faut juste expliquer aux personnes qui ne sauraient pas, c'est que Abyss n'est jamais sorti en Blu-ray et n'est jamais sorti en UHD non plus. Donc, la dernière version qui existe, c'est du DVD.
Le DVD qui date de 2000.
Voilà, ok. Donc, vraiment, ça fait 23 ans que le film n'est pas ressorti, quoi.
C'est ça.
Mais pour pallier, par exemple, à ce manque de prise de risque, j'ai pas l'impression, peut-être que je me trompe, tu vois, mais par exemple, dans la littérature, dans la musique, il y a le système de précommande. Et j'ai pas l'impression qu'il y a tant ça pour le système des Blu-ray, mais en tout cas, c'est pas répandu comme maintenant, par exemple.
Pas d'attente autour de ça, ouais.
Je peux pas parler du disque, mais je connais bien le monde de l'édition de livres.
Ouais.
Et alors, pour vous donner un exemple très simple, au début des années 2000, il y avait en gros 70 000 nouveautés livres par an inscrits en ISBN 13, enregistrés à la Bibliothèque nationale. Quand j'ai quitté le milieu en 2020, on était à peu près à 120 000 nouveautés livres par an.
Okay.
Avec, évidemment, le nombre de lecteurs qui a diminué. Alors, vous allez me dire, mais comment ça se fait que les éditeurs de livres font quasiment deux fois plus de bouquins en 2020 qu'en 2000, alors que le marché se contracte? L'explication est très simple. Le livre, quand on sort 10 bouquins, on espère qu'il va y en avoir un qui sera la locomotive des 9 autres. Donc la logique implacable des éditeurs se sont dit, eh ben, plutôt que d'en faire 10, on va en faire 20 ou on va en faire 30, et on sera là vraiment sûr qu'il y en aura au moins un qui tirera les 29 autres. Ce qui fait que l'économie est devenue complètement biaisée. Et puis il y a aussi la volonté de très gros éditeurs d'implanter leur catalogue plus que les autres, et donc de prendre les places, parce qu'on a des places limitées sur les tables, et donc de venir écraser la concurrence aussi par sa présence. Enfin, il y a toute une logique qui est assez malsaine d'ailleurs, parce que ça a pas mal fait baisser les coûts des avances sur les auteurs. Il se trouve que sur l'édition française, sur l'entièreté du catalogue, il y a à peu près 95% des bouquins qui se vendent à moins de 1000 exemplaires, voire à moins de 500 exemplaires. Okay. Donc en fait, l'édition française, elle ne tient que sur 10% de son. Et un best-seller, c'est considéré à partir de 20 000 exemplaires, ce qui est finalement pas si énorme que ça. Donc, mais les éditeurs français ont toujours encouragé d'avoir une offre la plus pléthorique possible afin de trouver le truc qui va plaire au public. Donc moi je trouve ça pervers, mais en même temps ça fonctionne. Et aussi parce que on est protégé par la loi Lange, qui est la fameuse loi du prix unique, qui n'est pas dans le Blu-ray. Fameuse loi du prix unique du disque, du livre. Qui permet d'avoir une TVA réduite à 5,50 et donc
ce qui est pas le cas du Blu-ray du tout, la TVA est à 20
et donc quand on achète un livre n'importe où en France dans la petite librairie du coin comme dans la grosse FNAC ou sur Amazon,
c'est toujours le même
prix. À peu près le même prix à 5% près. Donc voilà, tout ça a fait que c'est un marché qui est préservé. Moi je pense que au niveau du film, et là c'était aussi un constat de la conférence de ce matin, c'est que ça y est, ils pensent enfin que le catalogue, le back catalogue, le film de patrimoine, représente une part de marché importante. Et je crois que c'est 50% de l'UHD cette année.
Okay. Donc ça y est, c'est tous les studios qui ressortent leurs films en 4K. Mais du coup, d'où elle vient cette volonté des studios, parce que enfin des ayants droit, de ressortir leurs films, sachant que c'est cher de ressortir un film en 4K, parce qu'il faut rescanner, il faut restaurer la pellicule.
Cher, ça dépend. Ah ouais, ça dépend du truc.
Dépend du travail qui a été fait.
Les studios ont des masters, ont des pellicules originales qui sont bien conservées, donc. Faire un master en 4K, ça coûte pas très cher. Après,
une fois que t'as la machine, oui, c'est bon.
Après, derrière, t'as un studio qui va nettoyer un peu quelques trucs, mais ça représente pas un gros travail. Souvent, il y a un travail qui est beaucoup plus cher sur la mise à niveau des pistes sonores par rapport aux pistes sonores de l'époque. Quand t'as un vieux 5 points ou même un vieux stéréo, il y a un vrai travail de remixage parce que souvent, ils ont les négatifs et ils ont aussi les pistes séparées des voix, des effets, etc. Et donc, il y a un gros travail fait par les Américains sur leur patrimoine pour passer tout ça en Atmos. Donc, c'est super. Chose qu'on n'a pas en France. Des fois, parce qu'on n'a pas les sources, évidemment. Souvent, on n'a que des pistes mixées. Donc, on ne peut pas. Mais même quand c'est possible en France, comme pour le John Wick 4, justement, qui a été sorti par Metropolitan, et ils ont galéré d'enfer, parce que les sources Atmos Cinéma n'étaient pas compatibles avec le Blu-ray, qu'ils ont perdu des effets sonores dans la transcription, que c'était galère. Et en fait, le gars me disait, c'était galère, et en même temps, on manquait de temps. C'est-à-dire qu'il fallait que le truc sorte vite, donc il fallait trouver une solution rapide pour que ça fonctionne. Et c'est surtout un problème de temps, parfois, qui fait que les éditions sont attendues, et donc on n'a pas le temps de refaire un vrai travail. Mais c'est vrai que sur les éditions Ultra HD de patrimoine, il y a presque plus de travail sur le son que sur l'image.
Est-ce qu'il y a un lien entre, par exemple, ressorti en salle et succès d'un Blu-ray, Blu-ray 4K
clairement,
ensuite?
Clairement.
Ouais, il y a un lien.
Oui, je pense. Ouais. Bah, là, par exemple, À la fin de l'année, il y a Love Actually qui est un classique
qui ressort au cinéma.
Qui ressort au cinéma dans une version restaurée en 4K. Bon, j'espère que ça va quand même un peu marcher parce que pour l'instant, l'annonce du Blu-ray, enfin a priori le Blu-ray 4K est pas évident quoi. Donc,
ouais.
J'aime bien ce film.
Donc ce que t'as appris ce matin, c'est que les ventes de la HD en général, donc 4K et Blu-ray, ont dépassé pour la première fois le DVD en France.
Ouais. Alors donc parce que donc on n'était pas fini sur les explications, j'y vais rapidement parce qu'on a pas mal digressé. Mais donc parce que les ventes de DVD se sont effondrées, les gens achètent quand même moins de DVD parce que maintenant, bah, s'ils ont le choix, ils vont plutôt prendre le HD. Et que et donc sur cette baisse globale des ventes qui s'est ressentie quand même partout, c'est le DVD qui a morflé le plus. Donc comme le Blu-ray, l'Ultra HD reste à peu près au même niveau. Finalement, il passe devant, le DVD.
Aujourd'hui, le marché, je pense qu'on va vers une stabilisation forcément à un moment, parce que les gens qui achètent des Blu-ray, il y en a beaucoup qui sont des personnes dans notre cas et qui font ça parce que c'est juste une manière de vivre leur cinéphilie.
Bah, et puis qui ont envie d'avoir des belles éditions aussi.
Et qui ont envie d'avoir
c'est une vérité. En tant qu'objet, t'as envie d'avoir une belle édition.
C'est une habitude chez un public de niche, se perdra jamais, mais qui va se perdre, qui est en train de se perdre, chez le grand public, mais c'est vrai que nous, tu vois, on s'arrêtera jamais d'acheter des Blu-ray en fait.
Si tu veux, quand t'es abonné à un ou deux services de streaming, quand t'es par exemple sur un bouquet Canal complet qui t'inclut Netflix, Amazon, Apple TV, ça existe, hein, ça coûte 30€. Je crois qu'il y a un bouquet qui est assez vaste et qui inclut vachement de trucs. Le type qui est pas cinéphile, il a une offre de films, de séries et tout qui est tellement énorme.
C'est ça.
Bon, aller acheter du Blu-ray, à part si t'as une envie vraiment très, très, très précise. Et en plus, si t'es sur Canal, t'as les exclusivités films qui arrivent. Donc voilà, enfin, l'offre Canal, c'est une offre qui fait très, très mal au support physique.
Bah ouais, parce que c'est quel est l'intérêt d'avoir la nouveauté quand, au final, t'as le même truc quand t'as Canal, quoi.
Et puis, même moi qui suis un cinéphile très, très averti, quand j'achète un Blu-ray, je le vois une fois, je le montre peut-être une deuxième fois à quelqu'un, et puis après, je le range et je le garde précieusement.
Ouais, c'est ça.
Mais c'est pas un truc, à part quelques films, mais c'est pas un truc que je revois toutes les,
bien sûr,
les deux semaines.
Ouais, c'est ce que j'allais dire comme comparaison, tu vois, avec le CD et la musique de manière générale en support physique, où du coup, t'as plus facilement cet instinct de réécouter un album que de remater un film, je pense peut-être.
Ouais, c'est étonnant.
Et du coup, ce qui fait que c'est aussi pour ça que le format physique en musique marche bien, en tout cas reste à une position quand même
c'est vrai,
assez
le CD
correct,
marche toujours bien.
Le CD a étonnamment cartonné du coup l'année dernière, vu que c'était le CD n'a jamais fait de si bons chiffres depuis 20 ans.
C'est vrai.
Ouais, c'est gigantesque.
C'est dû à quoi?
C'est dû. Alors j'ai pas vraiment vu des explications, mais à mon avis il y a plein de trucs qui sont. C'est que le vinyle a augmenté de prix de manière assez
mais c'est fou. Bah, les prix des vinyles, c'est honteux.
Mais parce qu'il y a eu la mode, il y a eu cet effet de mode qui est arrivé.
Ouais, mais c'est bon, quoi. C'est à un moment, tu peux augmenter les prix, mais pas à ce point-là.
Ouais, ouais,
et donc, c'est pour ça qu'il y avait la même discussion que pour le livre, c'est-à-dire qu'avoir un tarif unique du disque, et que c'était une discussion qui avait lieu avec les politiques et tout ça, même pour essayer de favoriser les disquaires indépendants. Et donc voilà, quoi. Et donc, il y a ce truc de, le CD continue à marcher parce qu'il est moins cher que le vinyle. Parce que il est plus facile à ranger aussi, c'est plus compact, quoi. C'est un compact disque littéralement. Et aussi parce que je pense qu'il y a aussi une nouvelle génération qui est un peu genre la nôtre, on va dire, on a grandi avec le CD et que l'aspect nostalgique peut facilement passer du vinyle au CD. De ce style de, on écoutait nos CD. Albums comme ça quand on était plus jeune, quoi.
Ouais. Et donc du coup, moi jamais j'achète un CD, quoi.
Pourquoi?
Je sais pas, mais
quel est le problème?
J'ai pas acheté un CD depuis 10 ans, quoi.
Non, mais
ouais, mais
moi, ça m'arrive rarement, j'avoue, mais il y a quelques trucs que j'adore et je suis content d'avoir le CD. Mais c'est vrai que ça devient très très rare.
Et je suis pareil que vous, parce que t'as quand même beaucoup aussi d'albums qui sont plus dispo en vinyle ou tout ça, donc
voilà.
Donc t'achètes forcément
le CD. J'ai racheté des vinyles.
Pareil, les vinyles, ça je peux en acheter.
Le vinyle est un
objet. J'ai racheté le
vinyle
de Star Trek Motion Picture qui est sorti en version intégrale.
En même temps,
et
ça c'est des trop beaux objets.
Tellement beau. Et j'ai craqué sur le vinyle de L'étrange Noël de Monsieur Jack qui est sorti en picture disc.
Oh là là.
Et en picture disc animé, donc tu le mets sur ta platine et avec un téléphone, avec la fréquence de balayage du téléphone, tu vois le disque s'animer.
Ah, c'est trop marrant.
Génial.
Ah, c'est vraiment trop
marrant.
Mais
voilà, ils font
absolument
des belles
génial,
éditions.
Quoi.
Ils font des belles éditions, comme sur des steelbooks ou quoi, où ils vont faire des belles éditions. Et ça va aussi te donner envie d'acheter, même si de base, un mec achèterait pas beaucoup de Blu-ray ou de vinyle ou machin, c'est l'objet te donne aussi
le steelbook. Le steelbook sur le Blu-ray a beaucoup aidé.
Après le steelbook c'est aussi quand même un peu un guet-apens parce qu'il y a quand même beaucoup d'éditions de steelbook qui sont vraiment fainéantes et qui sont vraiment genre juste moches quoi.
C'est juste où on a fait le boîtier en métal.
Et tu dis que par exemple le design de la version standard en fait est mille fois plus joli que que le steelbook quoi.
C'est vrai.
Là-dessus c'est comme pour les vinyles avec la mode des vinyles colorés, des éditions c'est limitées vrai, avec un vinyle de telle couleur qui du coup en fait fait flamber les prix de manière ridicule alors qu'en fait
vous avez juste mis un colorant quoi,
alors que ça ne change rien.
Moi j'ai mon petit vinyle de Jamiroquai tout jaune.
mais même par exemple
ça a marché,
l'album de Triple Xtentacion 17 qui est ressorti en couleur blanche qui s'est vendu comme des petits pains à cause de la couleur et qui a pris un tarot monstrueux alors que c'est ridicule, enfin c'est ça n'apporte rien, il y a pas de
pour la BO de Spider-Verse là ils ont sorti donc du coup le vinyle donc double double disque et où ils ont
Mondo
fait avec la tâche.
Ah bah Mondo ils sont
Mondo.
Trop forts.
Ah, ils Mondo, ils m'ont pris des sous ceux-là.
C'était le celui de Chucky attends, c'est celui-là que j'ai. Je crois que j'ai celui de Chucky et celui de Vendredi 13 aussi, c'était magnifique. Enfin bref, ils ont des éditions de fou quoi.
Ils sont trop forts.
Passe à ton jeu.
C'était très rapide.
On a pas dit qui avait gagné les HD les Ultra HD Awards.
Oui, qui a gagné.
La meilleure image pour Avatar 2.
Ouais, ok.
Ouais.
Évidemment. Mm-hmm. Le meilleur son pour John Wick 4. Et là, bravo à Metropolitan parce qu'en effet, ils se sont fait bien chier pour faire une belle édition, un bon son Dolby Atmos en français comme en anglais.
Okay.
Le meilleur film de patrimoine réédité, c'est aussi pour Metropolitan avec Le Dernier Empereur. Et là, très belle édition. Dépêche-toi, elle est quasi sold out.
Ok, je le fais là.
Dépêche-toi, elle est bientôt sold out.
T'as complètement oublié qu'il y avait une émission.
Mais l'édition.
J'ai vu que t'avais fait une vidéo dessus.
On a fait au PAVS, on a fait un
35 boules quand même. Hein. Mais c'est
ouais, elle est très belle. Il y a un très beau livre dedans, un très beau livret.
Déjà en Blu-ray.
Et la version Ultra HD est juste sublime. Mm. C'est un film remarquable. C'est un film à avoir. Donc voilà. Enfin, si vous voulez vous faire un beau cadeau de Noël. Profitez-en parce qu'il en reste plus beaucoup vraiment. Le meilleur. Merci Métro, vous me reverserez ma commission.
Métropolitain, n'hésitez pas
Nicolas,
à nous envoyer.
Nicolas, revois la vidéo où ce Nicolas là, puisque c'est Nicolas Rioux qui a reçu le prix justement pour John Wick, et donc que je salue Nicolas.
Et ben Nicolas, n'hésite pas à nous envoyer les Blu-ray à Caméflex, on se fera un plaisir d'en faire.
Est-ce
la promo.
Est-ce que tu peux en faire une scène où tu dis ah j'ai acheté grâce au conseil de David.
Wow, merci David, grâce à toi j'ai acheté le Blu-ray du Dernier Empereur.
J'avais eu un code promo David.
Le Blu-ray français qui a gagné le prix du meilleur Blu-ray de film français, c'est sans grande surprise Les Trois Mousquetaires.
Ok, donc, d'accord. Bon,
techniquement, est un film assez splendide. Et le best des bests, puisqu'il y avait un deuxième prix qui honorait la meilleure édition Blu-ray de l'année, sans surprise, c'est Avatar 2 aussi, puisque il y a eu donc le Steelbook, le classique, le 3D, le Blu-ray standard, le DVD, la VOD, enfin bref, la totale. Et c'est vrai que l'édition est de bonne qualité, avec une petite
surprise.
Je l'ai
pas trouvé très jolie en fait, c'est pour ça que je l'ai toujours pas acheté.
J'aime pas non plus le visuel, mais l'édition en elle-même. Et alors, la grosse surprise pour moi, ça a été la version 4K du premier Avatar avec l'upscale en AI, l'upscale qui a été fait grâce à l'intelligence artificielle. J'aime pas du tout ce terme parce que c'est pas vrai, mais
c'est grâce aux
nouveaux algorithmes,
le logiciel type Topaz, etc.
Exactement. C'est une tuerie absolue. Ça, vous pouvez y aller les yeux fermés si vous voulez vous offrir une très belle version.
Ce serait dommage pour un film en 4K, les yeux fermés.
Oui, c'est sûr. Il faut se souvenir qu'Avatar n'est sorti qu'en Blu-ray à l'époque, en Blu-ray et en Blu-ray 3D.
Et la version longue, par contre, n'est pas ressortie en 4K.
Et la version longue, pour l'instant, n'est pas ressortie en 4K, mais c'est possible qu'il y ait d'autres éditions du premier film, parce que Cameron insiste beaucoup, et peut-être une nouvelle édition de la version 3D qui a été remasterisée et tout. Donc, on l'espère, on croise les doigts pour le premier film. Et pareil, la version longue n'est pas sortie en 3D. Donc, elle existe. N'est jamais sorti en 3D.
Ah oui.
Ça vaudrait le coup qu'il le fasse. même sur deux disques, puisque ils l'ont fait sur deux disques sur Avatar 2.
Dans aucun pays, elle est sortie en 3D.
Non, pas la version longue. La version longue est en 2D. La version normale est en 3D, la version longue n'est pas en 3D. Donc voilà, c'était les gagnants des Ultra HD Awards de cette année.
Est-ce qu'on passerait pas à ton petit jeu maintenant?
Oui, parce qu'on a pris beaucoup de temps pour parler de pharmacie.
Mais j'ai beaucoup parlé. C'est très bien.
Ah, mais le sujet est très intéressant et t'avais plein de données, plein d'informations à nous donner. Donc tant mieux que t'aies beaucoup parlé.
Les gars, je vous ai préparé comme ces deux dernières semaines parce qu'en fait le jeu nous plaît assez bien avec ouais. Nicolas. En tout cas, le jeu te plaît. Je vous ai proposé un quiz, donc un QCM. Donc il y aura une question, quatre propositions,
c'est là qu'on
une bonne
voit
réponse.
Les... C'est là qu'on va voir.
Alors moi je vais vous les dire. Et puis ensuite, ça va s'afficher à l'écran.
Et le chat, vous pouvez jouer, sauf que on a personne qui peut.
Non, malheureusement. Alors,
est-ce qu'il y a des modos qui peuvent le faire là sur
Je sais pas. Si est-ce qu'il y a un modo qui peut le faire ou pas.
S'il y a des modos, si Fincher t'es là, s'il y a des modos qui sont présents et qui sont capables de nous faire des sondages pour les différentes questions, on est preneurs. Et sinon, le chat, juste envoyez-nous un message.
On nous demande si on est des caméflex, si les gens sont des caméflexeurs, si on est les camé. Faut qu'on trouve un blaze.
Ouais, faut qu'on trouve un nom pour la communauté de
les camé. Peut-être un peu trop pour l'instant.
Ouais,
mais...
les camé, c'est étrange. Ouais.
Ouais, un peu connoté.
Les flexeurs.
Les flexeurs, moi je trouve ça très bien.
Les
flexeurs, ça fait un peu genre les flexeurs.
Tu sais que la caméra qui a servi à faire les trucages de Star Wars s'appelait la Distraflex.
Bah vous êtes les
Distraflexeurs.
De John Distra, le technicien d'effets spéciaux qui a inventé cette caméra pilotée Distraflex. Bref.
Écoutez, je vais vous poser la première question et puis
vas-y.
Sur le premier.
Si les modos vous arrivez à gérer un sondage dans le chat, on est
merci à Star Tours de s'être abonné, j'adore son
ouais.
nom.
Ouais. Bah merci à lui.
Première Let's question, go. Combien de prix sont à Cannes en compétition officielle? Est-ce qu'il y a 9 prix, 10 prix, 8 prix ou 15 prix? Compétition officielle. Oui, donc, si vous enlevez un certain regard.
Ouais.
Pas tant que ça.
Moi, je me suis fait spoiler la réponse.
Moi, je dirais 8 prix, moi.
Ouais, et j'aurais dit pareil. Du coup, je vais dire 9 par esprit de contradiction pour qu'il y ait un peu de...
Toi, tu dis 9 prix.
Je vais dire 9 prix.
Et toi, t'as vu la réponse?
Moi, j'ai vu la réponse.
Ah oui, mais arrête de regarder. La réponse, c'était 9 prix.
Let's go.
Bravo. C'est 9 prix.
Bravo, Werner.
Moi, je pensais qu'il y en avait plus que ça, en fait.
Non, il n'y en a pas tant que ça.
Bah, en fait, si tu dis, t'enlèves un certain regard et tout, c'est vrai que ça peut vite
descendre.
Pourtant,
il y a beaucoup de films en compétition, je crois, à Cannes.
C'est vrai.
Attention, prochaine. Combien de BO a signé John Williams?
Oh là.
Est-ce que c'est 76? 123,
wow.
137
ou 12. Ça c'est bien ton humour, ça.
Ça c'est typiquement 12.
Bah, ouais, il en a fait beaucoup, mais pas tant que ça.
76 c'est déjà énorme.
Moi je serais plutôt pour dire 76.
Ouais, pareil.
123. Moi je dirais 123.
123, mais c'est énorme, 123 quand même.
123, ça fait vraiment beaucoup.
Ouais. C'est pas impossible parce que attends, il faut pas oublier que Williams il compose depuis les années 60.
Mmh.
Donc ça fait quand même très longtemps.
Et puis il a composé plein de trucs aussi.
Alors, est-ce que ça veut dire que tout au long de sa carrière, il a répondu 2 BO par an?
Non, est-ce je pense c'est... pas, mais donc, il en a fait beaucoup, mais
76,
ça me paraît pas mal.
C'est la plus logique.
Ouais,
je vais dire 123 juste pour donner une autre réponse.
Ouais. Vous avez tous les droits, c'est 137.
Quoi?
Tu vois.
Alors, j'ai regardé sur Letterboxd, j'ai regardé s'il y avait des trucs de making of ou quoi à enlever, mais ça affichait pas ça. Et donc, sur Letterboxd, ça nous fait 137 compositions.
Ah, vous avez réussi, vous êtes trop fort, les modos.
Merci les modos.
J'ai été très surpris, je me suis dit que 137 c'était quand même un très bon score.
Mais c'est énorme, c'est bon. En termes de rendement par an.
À savoir que Goldsmith en a fait plus de 220, je crois.
Mais
Goldsmith produisait énormément.
Mais ça n'empêche que c'est impressionnant.
Bien sûr.
Très très jeune aussi.
Ah ouais.
Du coup, si les modos vous arrivez à couper la question d'avant et à relancer un nouveau sondage à chaque fois, enfin, à faire en sorte qu'ils soient très très courts les sondages.
Mais tu vois, on croit savoir, mais en fait,
on ne sait pas.
Et qu'on le sache pas.
137.
Le sachiez-tu?
Oh non, ça recommence.
Attention, prochaine question. Qui est Laurence Turo? Donc c'est le vrai nom d'un acteur.
Ah.
Est-ce que c'est Brad Pitt, Ben Affleck, Morgan Freeman ou Mr. T?
Mr. T,
ça serait tentant de dire Mr. T, mais je pense qu'on va se faire avoir.
Parce que je vois pas s'appeler Lawrence.
Lawrence, trop classe pour
Miss. Trop classe, Lawrence.
Lawrence Turo. Lawrence
Turo. Ouais, je te le prononce mal,
oh
mais
là
où
là 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 là. Ah, on n'a pas le droit de se servir de son téléphone.
Après, avec après, avec un accent badass, tu vois. Lawrence Turo.
Lawrence, que je veux dire. Lawrence Turo.
Tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais dire Mr. T aussi, tiens.
Ouais, moi, j'y crois.
Mr. T, Nico, tu dirais quoi, toi? Mr. T. Et vous avez raison, les gars, c'est Mr. T.
Ah, excellent.
Bien sûr. Lawrence.
Lawrence Turo. Attention, la prochaine question, c'est lequel de ces films n'existe pas?
Je suis trop chaud, let's go.
Est-ce que c'est Zombiever?
Ça, ça existe, je connais l'affiche même.
Ok, ok.
Wow, wow.
Pourquoi pas? Pique-niquer un mardi, il en est hors de question.
J'aime beaucoup.
L'attaque de la pom-pom girl géante. Oh,
c'est bien
Predator
possible.
Predator Man.
Ah, c'est super dur là, vraiment. Ah, moi,
c'est
je
très,
vous dis,
très dur.
Déjà, par élimination, Zombiever, Zombiever existe. C'est sûr.
Ouais, je connais Zombiever.
Moi, je vais essayer de la jouer par stratégie inversée. Je vais essayer de comprendre ton cerveau malade, Tom. Et donc.
Mais tu serais sur le pique-nique, c'est ça?
Moi, je sens que le pique-nique, c'est quand
moi
même
aussi,
un peu fake.
Moi aussi, ça, le pique-nique.
Je me dis que c'est un humour très Tom, ça. Pique-nique à
ce Predator Man, il y a bien un Asylum qui a dû faire ça.
Oui, non, mais
ouais, c'est clair.
Predator Man,
ouais.
Je sens l'attaque des pom-pom girls, bah, ça fait référence à un autre film de, c'est la femme de 50 pieds, l'attaque. Donc, pourquoi pas? Donc moi je sens que le pique-nique c'est fake.
Ouais, carrément. Predator Man, ça sent la flemme, hein.
Ou alors pour c'est... vous, pique-niquer un mardi, il en est hors de question.
Mais ah ouais. en vrai non, mais ça me plaît beaucoup, hein. Moi je vois un titre de film comme ça, je vais le voir.
Moi je rêve de l'avoir en
4K.
Je rêve de l'avoir en 4K.
Je suis sûr que lui il est. Bon, ouais, enfin, non, j'en sais rien.
Donc vous êtes tous les trois OK?
Non. L'attaque de la pom-pom girl.
Ah bon, bah alors.
L'attaque de la pom-pom girl. Allez, je dis.
Eh ben, j'ai inventé pique-niquer un
mardi. Je le savais.
Je savais bien.
L'esprit.
Les trois autres existent. Zombiever, j'étais très surpris que ça existait.
Mais oui, c'est ouais.
Mais le film est pas mal en plus.
C'est vrai?
Ah ouais,
pas mal,
ouais.
Avec les castors zombies, là.
Exactement. C'est exactement.
Quoi?
Oui, c'est exactement.
C'est un gros délire.
Ah non, mais c'est vraiment une affiche. T'as un castor qui est comme ça, à moitié zombifié. J'ai dit, c'est
incroyable.
Fascinant.
Mais des films de zombies, il y a beaucoup, beaucoup de.
Et ça, c'est un Asylum ou pas, du coup?
Non, c'est pas un Asylum.
C'est une petite série B.
Non, Asylum, c'est de toute façon mauvais.
Ah oui.
Alors que, non, Zombiever, c'est une petite série Z très, très sympa.
Ok.
Très chaud.
Et qui se prend
non, qui se prend pas au sérieux.
Bah, pas avec un concept comme ça, Tom. Non, tu mais justement, là, t'en fais un vrai.
Non, mais attention, nanar, le problème d'Asylum, tu vois, quand ils font du Sharknado, c'est qu'ils font du Z, pour faire du Z.
Pour faire du Z. Exactement.
Cynique.
Je déteste ça.
Et c'est pas drôle. Ouais. Mais par exemple, il y a un film que je vous recommande, qui s'appelle en anglais, qui s'appelle Blades. Donc rien à voir avec Blade.
Ouais.
Et qui s'appelle, en français, c'était le, ça va me revenir. Et donc c'était une production Trauma des années 90. Et alors c'est génial parce que c'est un remake plan pour plan des Dents de la Mer avec une tondeuse tueuse. Et c'est un remake ça. Plan pour plan.
Ah,
et
ouais.
C'est drôle. Super drôle.
Ah,
et,
excellent.
Il était passé sur M6 à l'époque et je commence à regarder ça d'un œil torve, tu vois, genre je faisais autre chose. Puis je commence à regarder le truc.
J'ai déjà vu ce film.
C'est plan, c'est... Ce truc, c'est pas possible. Et après, je me suis éclaté de rire. C'était super drôle. Je crois que c'est Les Lames de la Mort, un truc comme ça en français.
C'est
je me souviens plus
de
du titre français. Mais Blades, j'ai cherché Blades, Trauma, c'est Trauma Picture qui a produit ça.
Ouais.
Et si vous trouvez ça d'occasion, regardez-le. Okay. C'est pour les fans des Dents de la Mer, comme je suis.
C'est vraiment une
génial. C'est très, très drôle. Okay.
Ça, c'est très Easy Cash compatible, hein, je pense.
Oui,
on peut très facilement le trouver là-dedans.
Easy Cash compatible.
Attention prochaine, laquelle de ces références cinématographiques n'est pas dans Gremlins?
Ouh. Ah, trop facile.
2001, La vie est belle, Planète interdite ou La quatrième dimension?
Pas si facile que ça quand même. Ah bah je pense que c'est 2001 moi.
La vie est belle, c'est sûr.
Oui, il y a le film passe à la télé. Planète interdite, on voit le robot dans la. Les trucs des inventeurs, il y a Robbie qui est là.
Et la
quatrième
dimension,
comme c'est Dante et que Dante a fait un des épisodes de la quatrième dimension, ça m'étonnerait pas qu'il y ait la.
Ouais,
je connais la réponse.
Qu'il y ait la musique. Donc je dirais que le seul qui me paraît pas en rapport, c'est 2001.
Ouais, tout à fait d'accord.
Ok. Bah, effectivement, c'est 2001. Ouais, bien joué.
On a eu un raisonnement, mais nickel quoi.
Du coup, c'est bon.
Ça fait partie des films que je connais bien. Attention, comment s'appelle le créateur du sabre dans Kill Bill? Est-ce que c'est Atari Hanzo, Atori Hanzo,
oh, putain, je l'ai pas revu.
Atoro Hanzo
ou Camaro?
Ou Camaro.
J'aurais adoré que ce soit Camaro, malheureusement.
Camaro, c'est une voiture.
Je ne sais pas.
C'est aussi un très mauvais chanteur, Camaro.
Alors tu vas te détendre tout de suite.
Tu vas pas défendre Camaro, arrête-toi.
Ouais, on pourrait, hein. Allez, mais non, mais là, c'est du hasard, là.
Baby.
Atori.
Toi, tu partirais sur Atori en dessous.
Mais je partirais sur n'importe lequel, j'en sais rien. C'est
Atari, oui, ça fait bizarre.
Atari, ouais. Atari.
Et Atoro, c'est Atotoro.
Ouais,
Atari Anzo.
Atari Anzo.
Ouais. Allez, mais je m'en souviens plus.
Ouais, je vais dire Atoro par esprit de contradiction. Allez.
Et ben, c'était Atari Anzo, effectivement. Ouais, c'était bien la réponse B. Ah, mais je me souvenais plus, en fait, moi, de base. J'hésitais entre Atari.
Très chaud. Je sais pas si c'est Fincher qui gère tout ce qui se passe dans les sondages, mais très très chaud.
Bah merci Fincher pour les travaux.
Bon, allez,
tout le monde disait la B.
Une facile. En quelle année se déroule Alien? 2089, 2064, 2122 ou 2145?
Très facile. Effectivement. Très facile. Tout le monde qui ne connaît pas ça, enfin, les gars.
Ouais, ben, des fois, je le fais comme ça parce que si vous répondez trop vite, je me dis, ah, merde.
Et ben. J'aurais tendance à dire 2064.
Oui, moi aussi, parce que, en fait, c'est jamais, les Américains sont complètement nuls en projection vers le futur. Oui. Dès que ça passe 5 ans, en fait, c'est très très loin.
Ouais. Alors, non, je crois que c'est, écrit,
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que, quand les Américains, imaginent le futur, c'est jamais très loin, ouais, en fait, parce qu'il
c'est en 1997,
10 ans plus
New
tard
York
pour eux, c'est déjà 50 ans, quoi. Ouais, on n'a pas les mêmes temporalités.
Donc vous partiriez sur 2064?
En fait, c'est 2064 ou 2089, ça se bat entre
plus,
les deux, quoi.
Je sais plus.
Là, les gens se tâtent dans le chat entre la A et la B. Est-ce que c'est en 89? Est-ce que c'est en 2064?
Parce que 2122, c'est un film ricain, paresseux, qui vient sortir l'année dernière, qui fait, oh, alors 100 ans plus tard, voilà ce qui se passe.
Ouais,
voilà.
Moi, je dirais 2089. Comme ça, ça fait, ça fait un petit.
C'est l'un des deux, c'est clair.
Un petit 100 ans.
Eh bien, c'était 2122.
Ah merde, on est nul.
Ah.
C'était bien 2122. Le 2 se passe 57 ans plus tard, donc il y a eu,
Ah oui.
Mmh.
Ah oui, parce qu'elle est restée,
en
hibernation, la pauvre.
Ouais, oui. Attention, à partir de quel animal a été fait le bruit du brachiosaure dans Jurassic Park?
Dauphin.
Est-ce que c'est un mouton et un cheval? Est-ce que c'est un hippopotame et une noix?
Éléphant et renard.
Est-ce que c'est un éléphant et un renard?
Éléphant et renard.
Une baleine et un âne.
Ouais, c'est une excellente question. Bah, éléphant et renard, ça me paraît possible dans la
méta.
Qui est très proche d'une trompe, quoi.
C'est le brachiosaure. Hein.
Ouais. C'est le brachiosaure.
C'est probablement Ben Burtt qui a dû travailler sur le son, hein, puisque c'était l'homme du son.
Oui, je crois.
Sur Skywalker Sound.
Oui, Dino. Dans le chat, alors qu'est-ce que vous dites dans le chat? Mouton et cheval, c'est pas ça. Hippopotame et oie. Bizarre. Éléphant et renard. Je vois pas ce que le renard viendrait foutre là-dedans, mais.
Baleine et âne.
Tu sais ce que ça fait, toi, le bruit d'un renard?
Ah, c'est une baleine et un âne. C'est sûr.
Ah, mais ouais, mais l'hippopotame, c'est pas mal aussi, hein.
Et une noix?
Ouais, l'oie.
Bah, écoute, je fréquente très peu de noix, donc.
Parce que tu vois,
l'âne, non, mais l'âne, ça peut être un peu un truc de respiration, tu vois, Et le baleine plus pour le côté.
L'éléphant, c'est pas mal aussi. Hein.
Tu ferais un excellent bras.
Mais renard, ça fait pas de bruit, un renard.
Si,
ça glapit.
Oui, mais c'est pas.
Ça, je ne sais pas.
C'est quoi?
Non, moi j'aurais
vraiment aucune idée.
Ouais, ma théorie de l'éléphant et renard, moi j'y crois. Ouais, mouton, non.
Mouton, non.
Non, moi je pars tête
c'est
baissée.
C'est l'un des trois derniers.
Moi j'aime bien les hippopotames, alors moi je vais partir sur l'hippopotame. Moi je dis baleine et âne.
Ouais, éléphant et renard sont sans aucun problème.
Eh bien, c'était baleine et âne.
Yes. Bravo.
Ah ouais.
Ouais.
Incroyable. Yes.
Alors,
franchement,
il y a plein d'autres dinosaures qui ont été faits avec plein d'autres animaux aussi.
Et dans les exemples, là, il y a pas des exemples.
Je sais que l'oie, elle est sur un truc. Je sais que il y a.
Ah oui, mais t'as pas fait le mix d'un truc qui existe déjà.
Non. Il y a une jument en chaleur qui est fait pour je sais plus quel.
Il y a du mort sur le
raptor. C'est très important.
Non, mais c'est vraiment le truc. Ils ont pris des sons de juments en chaleur pour faire certains bruits.
Je sais que le raptor, il y a de l'éléphant et du morse dessus.
Je sais.
C'est bien.
C'est fou.
Mais voilà. Attention, combien de paires de lunettes a porté Daniel Radcliffe pour son rôle dans Harry Potter? Est-ce que c'est 130, 140, 160?
Ah ouais, mais là, c'est dans un mouchoir de poche.
160.
Ah ouais, mais là, tu veux rendre fou.
Hein? Parce que c'est que une lunette.
Alors, est-ce qu'on
c'est pas la même lunette.
Est-ce qu'on peut savoir si c'est sur toute la saga ou c'est sur sur toute la saga?
Ça me paraît peu.
Ouais, non, c'est pas sur un film.
Ça me paraît pas énorme pour
toute la
saga.
Donc il y a 8 films.
Il y a 8 films.
Donc il y a une moyenne de combien de lunettes par film?
Ça c'est un bon calcul.
Bah
une quinzaine. Moi une quinzaine, ça me paraît pas déconnant. Moi j'aurais tendance à 130.
Ouais, 15, ouais.
130, ouais. Un truc comme ça.
Bah allez, 130, hein, ça part sur
ouais, 130. Ça me paraît plus probable. Ou après, vraiment, c'est vraiment...
Allez, j'ai le chat, ça se tâte entre la C et la D.
J'ai décidé d'être un peu bâtard sur celle-là.
Moi, j'aime bien 150.
Au 150
ouais.
Eh ben, la réponse, c'était 160.
Ah, bah, tu vois, j'étais pas loin.
J'ai hésité.
Toujours plus. En gros, c'est 20 paires de lunettes par film.
Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Mais pourquoi? Pourquoi autant?
Je ne sais pas.
Pourquoi autant utiliser
Est-ce
de lunettes?
Est-ce qu'il y en avait pour aussi les doublures cascades, les machins, les trucs? C'est possible.
Ah, ouais. Daniel Radcliffe, en fait. Il faudrait savoir à un moment.
Oui, c'est vrai. Donc ça marche pas. Ma théorie ne marche pas. T'as raison.
Ah, je sais pas. C'est bizarre.
Attention, dernière question.
Pas des
Quand Sean Connery jouait James Bond, pour le rendre encore plus beau, il a eu recours à quelque chose. Est-ce que c'est un des talonnettes pour le faire paraître un peu plus grand? Est-ce que c'est une perruque? Pour lui mettre une magnifique chevelure.
Des
grosses épaulettes sur son costume pour le rendre un peu plus carré.
Un dentier.
Ou alors une prothèse dentaire pour qu'il ait des dents absolument nickel, quoi.
Les quatre sont plausibles. Les épaulettes.
Alors, il était grand, Sean Connery, donc. Des talonnettes, je vois pas trop. Les épaulettes, c'était pas la mode, hein. Franchement, parce
que... Mais tu sais, des trucs un peu rembourrés pour le...
Non, mais je vois bien l'astuce dessus des épaulettes, je comprends.
C'est vraiment bizarre.
Le dentier, franchement, je sais pas. Mais par contre...
Mais la perruque, c'est probable.
Bah,
il a perdu ses cheveux très jeune.
Ouais. Hein. Ouais.
Donc c'est probable, la perruque, c'est probable. Ouais. Dans c'est Octobre probable. Rouge, Ramius, il a une perruque, mais en acier, quoi. Ouais. La perruque. Moi, je voterais la perruque.
Le chat, qu'est-ce que vous dites ça?
Dans le nom de la rose, c'est une tonsure. Donc
dans le nom de la rose, il avait pas besoin de perruque.
Ils sont plutôt sur la B dans le chat.
C'est plutôt sur la B, donc on se tient du côté de la perruque.
En même temps, je me dis un dentier, peut-être ça se trouve.
Dentier, c'est vraiment une espèce de prothèse dentaire que tu claps.
Peut-être qu'il avait des chicots, enfin avec tous les gros plans qu'ils font dans James. Ouais, je pense pas. Je sais pas.
Ça me paraît trop bizarre. Sinon, on verrait quand même dans d'autres films ces chicots pétés, quoi.
Ça c'est pour James Bond du coup.
Et ça c'est sur tous les James Bond qu'il a fait.
Ouais.
Ben, écoute,
la perruque.
Moi je voterais pas la perruque.
Ouais. Et ben vous avez effectivement raison. C'est une perruque qu'il a portée tout le long du film.
Incroyable.
Et parce que effectivement il avait les golfs qui commençaient à
apparaître. Il perdait déjà ses cheveux assez tôt.
Bah écoutez, bravo déjà. Et puis
merci.
On va passer aux recommandations.
Ouais. Alors ça veut pas dire que c'est la fin de l'émission
parce qu'il y a un dernier jeu.
Il y a encore un jeu.
Ça ne s'arrête jamais.
Donc
mais
les
surtout c'est les prix vu qu'on est, je crois que c'est à peu près 10 000 euros par.
C'est ça exactement.
Réponse.
C'est ouais. Ça. Pas de bonne réponse. Ouais.
Mais on est d'achat. Savoir qui sera le meilleur au 36-12. Si vous pensez que c'est un Nicolas,
envoyez le SMS 308.
Werner, toi, tu voulais reparler de deux choses. Et le premier truc, c'était un film qu'on a traité la semaine dernière
On
est très content de l'avoir vu. Je ne sais pas si tu l'as toujours vu, Nicolas, mais
de quoi?
Non, t'as pas eu le temps de le voir, Mars Express.
Pardon, j'étais en train de suivre les pizzas.
Tout à fait, ouais.
Tu veux parler de Mars Express?
Tout à fait.
Jérémy Perrin.
J'ai vraiment envie de me remettre une couche sur ce film qui était vraiment trop cool. J'ai découvert le soir même de sa sortie.
Il est absolument génial. Moi,
je trouve.
J'ai mis 1000 ans à comprendre le message de Solane qui disait il y a les pizzas, comble un peu. J'ai fait comble un peu. Ah, il faut que je comble un peu.
Ah oui.
Vas-y, parle de Mars Express.
Mais du coup, ouais, ce que je trouve vraiment le film vraiment super. Vraiment, déjà, en 1h30, franchement,
il se tient.
Et malgré le fait que, par exemple, il soit assez rapide comme film, ça va quand même très vite.
Ça prend son temps sur certains trucs aussi.
Ouais, surtout sur la fin. Mais il y a vraiment un truc de lisibilité où, en fait, rien ne t'est expliqué verbalement, mais tu comprends très vite tous les mécanismes de l'univers. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment bien pensé, quoi.
J'ai trop hâte de le voir. Tu sais qu'il y a Jérémy qui était dans le chat
la semaine dernière, il est resté avec nous.
Ouais, incroyable.
Et il a fait énormément d'interviews, là, un petit peu partout, dans plein de médias, sur plein de chaînes YouTube.
Carrément.
Il sera dans Bandermag aussi, c'est
déjà
ça?
Passé, ouais.
Il est déjà passé dans Bandermag.
Et, en tout cas, c'est formidable.
C'est trop cool. Et puis, mention spéciale à la bande originale, qui est vraiment très chouette aussi.
Je suis extrêmement d'accord avec toi, j'en ai parlé la semaine dernière.
La BO est vraiment chouette, et moi je trouve que c'est vraiment une BO qui mélange vraiment ce côté SF et un peu vraiment chanson française. Il y a des morceaux qui sont vraiment chouettes.
Est-ce
aussi.
Est-ce que c'est ta claque ciné de...
Je sais pas.
Ça fait longtemps que t'avais pas une claque ciné ou c'est une vraie bonne découverte?
Non, je me dis juste que cette année niveau anime on est quand même bien, quoi.
Nous ensemble on a vu Cross the Spider-Verse.
Et je me dis que vraiment, le film a coûté que dalle, il a coûté 8 millions.
Ouais. Franchement.
Et bah putain, j'ai vu un film à 7 millions pendant le festival et mec, c'est ouf que Mars Express en ait coûté 8 parce que ce que j'ai vu c'était hyper cheapos quoi.
Et tu dis 8 millions pour ce qu'il y a et tout, franchement. C'est vraiment giga bien écrit, il y a des twists, ça parle de plein de trucs. Okay. Vu que vous l'avez pas vu, je vais pas en dire plus.
Bah, moi, il mais... y a que moi qui, enfin, nous, il y a nous deux qui l'avons pas vu, mais.
Mais c'est pour ça, mais on se sait avec
eux. Et je suis obligé d'attendre parce que j'ai mon copain PP et copain LTP, Lord de ton père, qui veulent le voir avec moi. Alors, PP était parti, il est revenu. Donc, je vais pouvoir essayer enfin de caler un rendez-vous, on va pouvoir le voir. Ouais.
Et petit remerciement à Philippe Montaille, parce que j'avais fait un tweet pour le film. Philippe Montaille, qui est un des compositeurs du film, qui m'a envoyé un petit mail. Ah, ouais, cool, dit, ouais. Avec un album en avance, voilà.
Allez,
génial.
Voilà.
Non, mais ça a l'air très beau en tout cas.
Mais franchement, c'est super.
C'est vrai que toi, t'avais vraiment kiffé la musique justement, comme ce que
tu disais. Ouais, complètement. Je trouve que c'est génial.
Et donc, c'est Philippe Montaille et Fred Avril, voilà. Comme ça, je cite les deux qui ont fait le taf. Et c'est super.
Tu voulais aussi nous parler d'une vidéo YouTube.
Ouais, tout à fait. Il y a un YouTuber musique francophone que j'aime beaucoup qui s'appelle Florent Garcia, qui est plutôt spécialisé rock et guitare et qui a sorti c'est sa dernière vidéo une vidéo sur la musique de Marvel, chez Marvel, mais récemment, et en comparant surtout Ant-Man 3 et Loki, et l'usage de la bande originale, enfin comment la musique est utilisée et à comment elle est composée, tout ça, et ça parle notamment du travail donc de Natalie Holtz, qui est donc la compositrice pour Loki, et qui en fait montre un petit peu les rouages un petit peu de la mécanique Marvel maintenant, on va dire post Disney plus tout ça, et avec l'arrivée des séries Marvel,
Loki,
tout ça.
C'est pas mal.
C'est la, c'est
j'ai
le
pas
seul
vu,
projet
mais ça a l'air
Marvel
très bien.
Un petit
Alors,
peu
j'avais
sympa.
Beaucoup aimé la première saison. Avec des hauts et des bas, parce que c'est toujours pareil, les séries Marvel,
ouais, bien
ça
sûr.
Tire à la ligne, donc,
même, c'est un problème de série en général.
En
ouais, exactement. Ouais.
Mais je trouvais qu'il y avait quand même pas mal d'originalité, et j'étais un peu plus réservé, je suis un peu plus réservé sur la deuxième saison, même si visuellement il y a des trucs assez magiques. Mmh. Et c'est vraiment une série qui sort du,
ça a l'air d'être un peu plus classique,
cliché, original.
Et qui, pour une fois, un début et une fin. C'est-à-dire que là, la saison 2, c'est une fin en soi. C'est-à-dire que tu ne t'attends pas à 4 autres saisons. C'est une fin et c'est appréciable. Ça a des petites idées. Moi, c'est le dernier, le dernier projet Marvel depuis longtemps que j'ai trouvé un petit peu sympa dans cette thématique.
Tu seras peut-être d'accord avec moi. Je trouve que Loki saison 2, au lieu d'avoir fait, je sais pas combien ils ont fait, 8 ou
6, 6 épisodes.
8, 6 épisodes. Ça aurait pu être divisé par deux.
Ça aurait pu être 3 épisodes, hein, complètement.
Franchement, c'est ça tire à la ligne et à un moment, ça part, si tu veux, sur des redondances de l'histoire qui sont pas forcément super intéressantes. Okay.
Ça fait très, tu vas râler, ça fait très Doctor Who, hein, dans des idées,
dans
des idées de mise en scène et d'écriture, c'est très ça.
Tu veux me mettre en colère, bref. Mais en tout cas, la vidéo est très bien, la vidéo est très intéressante, et ça parle aussi un petit peu, ça ouvre la porte aussi pour parler un peu de la nouvelle génération des compositeurs, compositrices qui arrivent, et donc la vidéo est très cool, voilà. Donc, et ça rejoint
c'est
exactement
pas,
ce
la femme dont tu parlais qui a fait la musique de Loki, c'est pas la même qui a fait Joker ou je me
alors là tu me poses une colle là franchement là je saurais pas te dire.
Tu veux que je regarde?
Non Joker, je confonds donc, tout. C'est pas celle qui a fait la musique de Fortnite? Non, c'est pas elle.
Aucune idée.
C'était très
obsédé
fort.
Par
c'est
Fortnite.
Ça, très fort.
Mais si aucune idée. En tout cas, la vidéo est très bien et le travail de Florent est très bien aussi.
Il parle. Elle s'appelait comment?
Natalie Holtz.
Merci pour ce petit troco.
Avec grand plaisir.
Ah ouais.
David, toi, tu voulais nous parler du coffret Colombo, l'intégrale du
Colombo.
J'ai
deux
de
recos, d'abord, de mes amis de l'atelier d'image, que je salue, que j'aime beaucoup, qui font des éditions de plein de choses super intéressantes. Ils ont fait une édition de Pitch Black qui est magnifique en 4K. Qu'est-ce que c'est beau.
Ouais.
De David Tohi. Il a un nom pas possible, ce réalisateur. Ils ont fait, là, récemment, ça arrive aussi, l'Armée des Douze Singes en Ultra HD. Donc voilà, ils sortent des trucs super. Et donc, ils ont bataillé pendant longtemps afin de pouvoir sortir l'intégrale de Colombo, qui donc date de la fin des années 60 jusqu'aux années 2000. Ça a été une série qui s'est étendue. Donc, il y a eu toute une première partie qui s'est passée dans les années 70. Je crois que c'est les 4 ou 5 premières saisons. Et après, il y a eu un gros gap avant de reprendre par des saisons nettement plus courtes d'ailleurs, voire il y a des années où il y a que deux épisodes, tu vois, par année. Et tout sort en HD et c'est vraiment super parce que
ça que ce soit jamais sorti en HD avant, quoi, qu'ils aient mis
alors je crois que c'était sorti en HD aux États-Unis, mais enfin on a une version française avec la VF, et ça c'est important parce que la VF elle est iconique.
Bah, les gens ont vécu avec ça, quoi.
Et moi je peux pas imaginer regarder Columbo en VO. Pourtant j'adore Peter Falk et j'adore la VO, mais
c'était qui en VF?
Bah c'était, je me souviens plus du nom de l'acteur, mais il l'a fait toute sa carrière. Et ce qui est génial, c'est qu'il a commencé à doubler Peter Falk dans Columbo, et Peter Falk de manière générale, je crois, dans la fin des années 60, et ils avaient à peu près le même âge, je crois, 2 ans près. Donc il a suivi le vieillissement de l'acteur sur toute sa carrière, et donc sa voix évolue aussi, et vieillit avec l'acteur, et c'est parfait, en fait, c'est juste parfait. Donc Columbo.
Toi, t'as connu Columbo à la télé.
Vite fait, ouais, bah je regardais un petit peu les épisodes avec ma grand-mère le dimanche, quoi. Ouais, tu vois,
c'était classique.
Cette ambiance. Alors, quoi.
Ce qui est génial,
sur TV Brest, bien sûr.
Ce qui est génial avec Columbo, c'est que d'abord c'est très bien réalisé. Il faut rappeler que un des premiers épisodes. Alors, il y a eu deux pilotes. Il y a eu un premier pilote, puis un deuxième pilote, et après un premier épisode qui n'a pas été le premier épisode tourné, mais le deuxième. Mais le premier épisode de la série, de la première saison de Columbo. Numéroté, enfin comme ça, c'est l'épisode réalisé par Spielberg qui s'appelle Murder by the Book, qui est un épisode excellent et surtout, faut regarder la réal.
Il y a plusieurs réals qui sont.
Ah ben il y a plein de très très bons réals qui se sont enchaînés. Il y a eu Jeannot Soir, réal français, qui a fait un très bon épisode aussi. Il y a plein de très très bons réals et c'était une série extrêmement soignée et au niveau de son écriture et au niveau de sa réalisation. Si vous aimez, si vous voulez entendre parler de Columbo de manière très intéressante, il y a je crois que c'est la chronique du Méa.
La chronique de Méa.
Le Méa a fait pas mal d'épisodes sur Columbo où il décrypte, où il analyse. Ouais. C'est super bien. Et donc, moi, j'adore cette série. John Cazavet, là, qu'on voit en ce moment à l'écran.
Un grand ami de Peter Falk.
Il avait pas son œil vert, là.
Chef-d'œuvre Mikey and Nikki, réalisé par Hélène May, c'est ça? Son prénom ou avec les deux acteurs qui jouent deux personnages qui ont une amitié toxique qui est incroyable.
C'est une série remarquable parce que d'abord elle se base sur un principe qui est génial, qui est la seule qui fait ça.
Ouais,
c'est-à-dire qu'on
sait qui
sait qui a tué et qu'en fait ce qui est intéressant c'est de voir comment Columbo va raccorder les petits indices et tout pour arriver à piéger et à découvrir l'assassin et en fait c'est super parce que de base, tu sais qui a tué et tu te passionnes à voir si Columbo joue l'imbécile, essaye de piéger. Enfin bon, c'est super bien. Les musiques sont excellentes. C'est une série remarquable et qu'on peut voir de 6 à 77 ans parce que moi, je l'ai montré à ma petite fille qui a 11 ans. Elle a complètement accroché. Maintenant, on regarde toutes les semaines en ce moment, on regarde des épisodes de Columbo et elle est passionnée. Elle trouve ça génial et c'est incroyable parce que c'est quand même des séries qui sont longues parce que c'est soit des épisodes de 110 minutes, soit des épisodes de 1h10, soit des épisodes d'1h30.
Ah ouais,
des
okay.
trucs conséquents. Et bon, voilà, je trouve que ça vieillit extrêmement bien, que okay. c'est un petit chef-d'œuvre. Et l'autre chose très importante en matière de série, ça arrive sur Paramount Plus le 15 décembre. Donc Paramount Plus, c'est pas forcément la VOD qui marche le mieux en France, c'est 1% du marché de la VOD. Donc ouais,
Suis abonné.
Je suis abonné aussi.
J'ai regardé un truc.
Alors,
je crois que je l'ai aussi.
Ça fait 6 mois que je suis abonné, je paye tous les mois, j'ai regardé un
vite
truc.
Vite fait, hein. Il y a Tulsa King avec Stallone qui est très très
c'est
bien.
C'est bien ça?
Très très bien.
Ok.
Il y a
The Offer.
Offer.
C'est le seul truc que j'ai regardé.
C'est la série à voir. Enfin,
après, c'est complètement mensonger, c'est complètement romancé.
On s'en fout.
Mais c'est très très bien.
C'est comme Amadeus, c'est pas l'histoire d'Amadeus, mais c'est très bien. Donc ça raconte, c'est censé raconter. Enfin, c'est tiré du livre du producteur.
Voilà, qui est un affabulateur, un mythomane.
Mais en tout cas, il raconte l'histoire du tournage du Parrain et c'est savoureux. En plus, c'est très bien réalisé, c'est très beau.
Vraiment, la série est géniale. La série est géniale. Ce qui est fou, c'est vraiment ce décalage avec la vérité,
Mais les personnages sont super.
Mais les personnages sont vraiment bien.
Ceux qui jouent, le mec qui joue Coppola est incroyable.
Mario Puzo.
Puzo est super bien. Pacino, pareil. L'acteur qui joue Pacino. L'acteur qui joue Brando est surprenant. C'est pas évident de reprendre
L'acteur qui joue Pacino, c'est vrai qu'il était génial.
Ça fait plusieurs fois, effectivement, qu'on me conseille de
regarder The Offer. Il y a que là que vous pourrez le voir.
C'est vraiment très très fun. Et dès qu'on aime un peu le cinéma, cette époque-là, l'acteur qui joue le producteur.
Le patron de la Paramount.
Ce personnage, il est génial. C'est l'un des meilleurs personnages de la série. Vraiment.
vraiment c'est super bien écrit, c'est très divertissant. Et
là
on aime,
tu vois, il y a 9 épisodes ou 10, ouais. Et il y a pas un épisode acheté.
Moi je crois que j'ai binge watch, j'ai dû passer 6 heures devant ma télé à regarder ça.
Excellent.
J'avais vraiment adoré. Mais voilà, faut savoir qu'en tout cas c'est assez faux tout ce qui est raconté.
C'est pas grave.
Et donc tu disais il y a une nouvelle.
Alors il y a dans les trucs à voir sur Paramount Plus, il y a aussi un truc que j'adore, c'est une petite série que j'aime bien qui est Frasier. Mm-hmm. Donc il y a l'intégrale de Frasier avec Kemsley Grammer.
Je connais pas du tout.
T'as cet acteur. Ah bah Frasier, c'est l'histoire d'un psychiatre qui fait des émissions de radio où il parle aux gens pour les soigner, et c'est un snob pas possible. Et chez lui, il accueille son père qui lui est l'inverse, et il a un frère qui est aussi psychiatre très snob. Voilà, Frasier, c'est très très drôle. Alors ça, c'est la dernière saison qui vient d'être lancée.
Du coup, c'est une sitcom ?
Non. Oui, enfin, c'est une série de 20 minutes. Mais ça, c'est la dernière saison. Attention, ceux qui sont, qui est aussi sur Paramount Plus, mais moi, ce que je préfère, évidemment, c'est toutes les saisons qui ont été tournées il y a 30 ans, et, qui sont excellents. Mais voilà, cet acteur dont j'arrive jamais à prononcer le nom est vraiment super drôle. Donc ça, c'est actuellement. Ce qui arrive le 15 décembre, et pour moi, c'est vraiment incroyable, c'est la série Dream On. Est-ce que vous avez entendu parler de
pas
ça
du tout.
Dream On, c'est une série des années 90 qui passait à l'époque sur Canal Jimmy. Si quelqu'un se souvient de Canal Jimmy.
Je connais que Canal Jimmy.
Qui est une série, qui est une série qui a été écrite par les auteurs Kaufman et je me souviens jamais le nom, qui ont fait Friends juste après.
Okay.
Je trouve ça bien meilleur que Friends, personnellement. Et donc c'est l'histoire d'un éditeur new-yorkais joué par Brian Benben, qui est un acteur qui a eu son petit succès à l'époque, qui est un super acteur, qui joue dans un film produit par Lucas qui s'appelle Radioland Murder, qui est assez fun. Okay. Et Brian Benben donc joue cet éditeur new-yorkais à qui il arrive des aventures sexuelles sans arrêt. Donc il a toujours des nouvelles conquêtes, donc déjà c'est assez croquignolesque, si
d'accord.
Tu veux. Et c'est surtout une série extrêmement drôle sur le monde de l'édition aussi. Bon, il a une ex-femme qui est remariée à un type qu'on ne voit jamais. Ça, c'est le principe toujours assez génial dans les séries un peu sitcom, c'est qu'elle est mariée à un nouvel époux, c'est son ex-femme, et son nouveau mari est un type tellement formidable, on n'imagine pas à quel point ça rend complètement jaloux le héros. Mais surtout, c'est une série qui a sauvé de la destruction tout un catalogue de films des années 50 et du début des années 60 qui devait partir au pilon. Mais c'est des centaines de films qui étaient conservés chez les majors et qui devaient partir au pilon parce que personne ne savait quoi en
d'accord.
faire. Et donc John Landis, qui est un des coproducteurs de la série, Scorsese, Spielberg, enfin de grands noms d'Hollywood, ont dit mais il faut qu'on fasse quelque chose. Ça, évidemment, c'est pas des chefs-d'œuvre, mais il faut qu'on trouve le moyen de sauvegarder ce patrimoine. Et donc ils ont eu l'idée de cette série. Cette série, en fait, à chaque fois que le personnage pense à quelque chose ou rêve à quelque chose, on voit un extrait de ces vieux films et c'est super bien monté,
d'accord.
C'est super drôle.
C'est génial.
Et donc c'est des vieux films en noir et blanc. On retrouve Ronald Reagan, on retrouve toute cette période. Et donc grâce à l'argent qu'a généré la série et le succès qu'a eu la série à l'époque, ça a permis de conserver ce patrimoine de films et ça c'est absolument formidable.
C'est
et c'est super bien intégré à la série. Il y a 6 saisons. C'est 6 saisons absolument remarquables. Ça arrive le 15 décembre sur Paramount Plus. Vous devez voir Dream On. Vous allez beaucoup rire.
Ok, j'ai jamais entendu parler de ça.
Je trouve l'histoire géniale en tout cas.
Il y a un petit problème de régie, je crois là.
C'est pas grave. C'est pas grave.
En tout cas, voilà. Paramount Plus,
c'est Marocco. C'est Marocco. Paramount Plus, c'est pas forcément la VOD la plus connue, mais moi je trouve qu'il y a des trucs vachement bien dessus. Et rien que pour cette série, abonnez-vous pour un ou deux mois. Abonnez-vous gratuitement pendant une semaine. Je crois que ça.
Paramount Plus, envoyez les codes. N'hésitez pas à envoyer les codes.
Testez Dream On. C'est une série qu'en plus qu'on ne peut pas trouver parce qu'elle a été. Il y a que 2 saisons qui ont été éditées en français.
D'accord.
En France, en ouais. DVD. Et c'est absolument impossible à trouver.
Donc là, ça se débarque en HD, quoi.
Ça débarque en HD sur. Alors, je sais pas s'il aura la qualité HD. Ouais. Par exemple, Frasier, qui est une vieille série des années 90, la qualité d'image est pas sensationnelle. Ouais. Ça se regarde. Et surtout, voilà, c'est une série qui est très très bien écrite, qui est assez volage, assez sexe. Et ça, c'est assez marrant.
D'accord.
D'ailleurs, il y avait 2 versions de Dream On. Je sais pas laquelle on aura sur Paramount Plus. Il y avait une version où on voyait les seins
Et il y a une version pour le passage télé un peu plus prude où on voyait pas les seins.
D'accord.
Et donc c'est assez dingue et bon voilà.
On sait pas du coup ce qu'il y aura sur Paramount.
Je ne sais pas pour l'instant, mais avec ou sans seins, la série est super drôle, elle est super bien écrite, c'est les écrivains qui ont fait Friends donc gage de qualité.
Non mais très curieux de découvrir.
Voilà, donc je vous le recommande vraiment, je pense que vous allez adorer.
Il y a quelqu'un, Fincher nous dit le prochain Friedkin sort sur Paramount Plus en plus. Donc ça je savais pas, je croyais que ça allait sortir au Cinoche. Donc
des gens bien ces gens de Paramount.
C'est la pub.
écoutez messieurs, c'est la fin de l'émission.
Oh, wow.
On a été très contents de vous recevoir.
Ouais, bah nous on était très contents d'être là.
Ah, et moi je suis très content de manger des pizzas après.
On a un petit peu de retard donc on va vous laisser. Merci à tous les gens qui ont été présents ce soir.
J'aurais juste un truc à dire, c'est que bientôt moi aussi je vais me mettre à faire du stream.
D'accord,
ok. J'en parlerai.
Go.
T'as déjà une chaîne ou pas?
C'est en train de se monter et donc il y aura une émission qui risque de vous intéresser puisqu'il y aura une émission de cinéma avec mon ami de toujours Patrice Giraud avec qui j'avais fondé à l'époque le Lucasfilm Magazine.
Ok.
Et on aura beaucoup de choses à raconter sur l'histoire de la Lucasfilm. Et on aura beaucoup
génial.
Et donc on va sortir des trucs qui sont jamais sortis parce qu'on a énormément d'interviews qu'on avait fait à l'époque parce que par exemple on a des interviews de Rick McCallum, le producteur de la prélogie. Des interviews qui sont très longues et donc on va enfin sortir ces trucs qu'on n'a jamais pu sortir.
Pour être au courant de ça, on te suit sur Twitter et
suivez-moi surtout sur Twitter puisque c'est là que je suis principalement @davidoguia, donc j'ai mon compte Twitter mais j'en reparlerai et puis je vous ferai signe puis j'espère que vous viendrez aussi
avec grand plaisir.
Werner chaîne YouTube
sur Twitter aussi
Twitter Insta pour les actus
et YouTube
pour le
Werner.mp3
Werner V-E-R-N-E-R
comme Werner Herzog
W-E-R-N-E-R.
Alors on a moi je au tout début de l'émission il y a Thomas Combray qui nous a dit j'espère que Werner.mp3 va évoluer en Werner.wave au cours de cette émission et ça m'a fumé de rire,
c'est très drôle.
Total Tracks aussi. Si, bien sûr.
Évidemment, le Total Tracks, le crowdfunding sur le livre de Goldsmith.
Il reste que deux jours.
Bien sûr.
À écouter si vous aimez la musique de film. On a dépassé largement les 100 épisodes. Donc, c'est une affaire qui roule.
C'est vraiment super.
Grâce à Olivier Desbrosses, on en sort un par semaine.
Ouais. Et c'est vraiment super.
C'est formidable.
Il y a un podcast qui sort au moins une fois par semaine. Il y a aussi Caméflex que vous pouvez
Bref, non, vous pouvez nous trouver sur YouTube,
Insta, Twitter, TikTok, YouTube. On se fait des bisous et à jeudi prochain.
Merci à toutes les personnes dans le chat. Merci à la régie.
Merci à la régie, c'est vrai.
Merci la régie, bravo.